Bonjour à tous et bienvenue dans ce 123e épisode de Tech Café. Nous sommes le 27 mars 2019 et ce soir, je suis très heureux de vous retrouver en tête à tête avec Nico du site de référence francophone sur les Chromebooks, entre autres évidemment. Tu as aussi d'autres casquettes, n'est-ce pas ? Comment vas-tu, Nico ?
Très bien, merci. Ça va bien et toi aussi, j'espère que tu vas bien.
Ça va pas trop mal, effet. Oui, ça va bien même.
Eh ben parfait.
Bon oui, pas de Guillaume Vendée ce soir aux dernières nouvelles. Il aurait été aperçu à Paris dans une cave entourée de bandes d'arcade, jurant et martelant frénétiquement des boutons d'une innocente Astro City qui n'en demandait pas tant. Alors Paris c'est loin, donc si vous voulez contribuer et permettre à Tech Café de disposer de sa propre borne Astro City, il y a un moyen. Ça s'appelle Patreon. Et oui, parce que ce podcast est soutenu par ses estimés auditeurs, vous-même, et il vous suffit d'aller sur la page de techcafé.fr pour y trouver le petit bouton rose du bonheur, appuyé dessus, et pour le prix d'un café, bon, d'un latte, ou même d'un frappuccino XXL double crème noisette, si ça vous dit. En tout cas, pour un prix modique par épisode que vous choisissez, vous pouvez soutenir le podcast, un podcast indépendant, et un podcast indépendant aussi bien parce que c'est un podcast qui peut dire du mal de tout le monde, parce que voilà, nous on est comme ça, on est méchants.
On aime ça,
évidemment. Alors, vous pouvez aussi juste laisser des commentaires, bien entendu, ou montrer votre intérêt sur iTunes, sur Spotify, partout où on peut nous mettre des étoiles. Bah, écoutez, les saisons, ça nous fait toujours très, très, très plaisir. Alors, de quoi est-ce qu'on va dire du mal ce soir, Nico ? Il y a un gros programme. Alors, on va dire du mal d'Apple, mais non, on n'ira pas que du mal d'Apple, je vous rassure. On va parler avec tout le sérieux et l'objectivité professionnelle qui nous caractérise, hein, bien entendu, du dernier événement d'Apple, bien entendu, quand même. On parlera aussi de Google, de Facebook, toujours dans l'actualité pour diverses raisons qui sont d'ailleurs presque toujours désastreuses. On continuera avec une rubrique motorisée où on essaiera de revenir sur le cas du Boeing 737 et quelques infos aussi concernant les voitures électriques. Après, bien entendu, alors une petite rubrique en bref et de délicats bonus. Alors voilà, encore un bon menu. Est-ce que tu es prêt à attaquer ce programme, Nico ?
Ah, je suis chaud, je suis parti.
On est chaud. Alors, sans autre forme de procès, commençons avec Apple. Voilà, l'Apple Event, parce que bien sûr, vous ne pouvez pas passer à côté de l'Apple Event du 25 mars, où ont été présentés plein de nouveaux services. Il y a Apple News, Apple Arcade, Apple TV+, il y a même une carte bancaire. Bon, tout ça pour ébaucher le futur post-iPhone, probablement, d'Apple. Donc on va bien peut-être commencer, si tu veux bien, par détailler un petit peu le versant média des annonces avec Apple News+. Alors, Apple News+, c'est quoi ? Les mauvaises langues diront que c'est SFR, le kiosque en mieux, et en plus cher, parce que pour 10$ par mois, vous avez 300 magazines et journaux tous prestigieux, hein, le New Yorker, l'Esquire, The Atlantic, National Geographic, Vogue, etc. Tout dispo soit en entier, soit via une sélection d'articles, hein, comme ce sera apparemment le cas pour le Wall Street Journal. News Plus est disponible sur iOS, enfin ce sera, vous le savez déjà, je ne sais plus exactement, News Plus, en tout cas, ce sera sur iOS et Mac, en Amérique du Nord. Un petit peu plus tard en Australie, en Angleterre, et encore plus tard dans le reste de l'Europe, hein, puisque bon, c'est bien que l'Europe non anglophone, c'est toujours un petit peu après. Alors oui, donc je disais effectivement, ça ressemble pas mal à SFR Press, avec plus de titres, hein, je le concède, donc je suppose que tu as vu aussi News Plus. Est-ce qu'un tel service t'intéresserait, toi, dans l'absolu ?
Alors, sincèrement, je trouve ça très très intéressant et il y a des côtés positifs. Alors, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis toujours contre la pomme, pas parce que je les aime pas, mais par principe. Je trouve ça super bien. Donc ils ont mis leurs pattes, hein. Clairement, c'est super joli. Les animations des jaquettes, j'allais dire, des premières de couverture sont assez splendides. Et moi, je l'utilise perso, enfin, j'utilise pas celui-ci, mais j'utilise le kiosque qui est déjà très très présent en France, qui coûte 10 euros pareil. La différence c'est qu'ils ont pour le moment, ils sont plus vieux, hein, donc ils ont plus de 1000 références françaises déjà, donc c'est quand même plutôt intéressant. Et je pense que ça va apporter un truc en plus aux autres, Apple News Plus, un constructeur comme la pomme qui se lance là-dedans va forcément jeter la lumière des projecteurs sur tous les autres, et tout le monde va pouvoir grossir encore plus et faire découvrir ses services à tout le monde. Et la presse en ligne, c'est quand même intéressant, ça me permet de lire des journaux que je n'aurais jamais lu auparavant parce que n'est pas de mon bord politique ou c'est pas du tout ce qui m'intéresse en général, mais là je tombe sur 2-3 articles et je pense qu'Apple va bien faire ça. On peut partager les articles, on va pouvoir faire pas mal de choses, donc ouais, c'est, moi j'aime bien, je valide, même si j'ai pourrais pas l'utiliser puisque je n'ai pas de produit sous iOS.
Oui, c'est vrai que c'est un petit peu la constante, hein. Il va falloir être client déjà d'Apple pour pouvoir utiliser un petit peu tous ces services. Services comme Apple TV, on continue avec donc ce service qui... alors, Apple TV, ça existe déjà, hein, y a l'Apple TV elle-même, puis il y a la TV App dessus, mais elle va avoir une nouvelle version de cette appli dans laquelle on pourra regarder directement des programmes de chaînes payantes tierces, comme HBO ou même Amazon. Et oui, c'est incroyable. C'est une grosse surprise, mais Apple a réussi à faire des deals avec les concurrents pour que les utilisateurs puissent regarder toutes les émissions au sein d'une appli unique. Alors, dès le mois de mai, il sera plus nécessaire de télécharger une autre appli, hein, vous pourrez directement voir, et payer bien sûr, faut pas rêver, tout directement dans l'appli TV App, quoi. Alors, tout sauf Netflix, et faut pas exagérer. Et puis bon, toujours sur l'App TV, qui ne sera plus exclusive d'ailleurs à l'Apple TV, il y aura aussi TV Plus. Alors TV Plus, ce sera pour cet automne, et c'est un abonnement payant à une chaîne Apple en quelque sorte, hein, qui proposera, c'est notable quand même, uniquement des contenus originaux Apple. Alors des contenus qui vont bénéficier du pognon monstrueux qui est à la disposition d'Apple, hein, puisqu'ils s'offrent les services de grosse pointure. Il y aura Spielberg, il y aura Night Shyamalan, il y aura Oprah, Ron Howard, Jennifer Aniston, Jason Momoa, Reese Witherspoon, j'en passe, et des meilleurs, donc il y aura un énorme truc. Alors je crois qu'ils ont mis même $1 milliard là-dedans, ils ont annoncé. Donc voilà, c'est un canal supplémentaire pour des shows de qualité peut-être, ou encore une plateforme de plus à laquelle il faudra souscrire pour voir les séries à la mode. Alors bon, c'est vrai que dans tous les cas, il semble, comme tu disais, qu'il soit nécessaire d'être chez Apple pour y avoir droit. Parce que je crois que c'est pas prévu ni sur PC, ni sur web, ni sur Android, donc voilà, je sais pas. Donc, on en sera plus cet automne. Toi, tu serais client d'un truc comme ça, ou tu vois cette fragmentation un petit peu de la vidéo d'un mauvais œil?
Aujourd'hui, on a un service de plus en plus fourni, hein, comme tu l'as dit. Il y a Netflix, il y a Amazon Prime. On n'oublie pas Disney qui va arriver, Disney Plus qui va arriver fin d'année. On va avoir de plus en plus de services, plus en plus de produits à regarder. Ça veut dire beaucoup d'abonnements au final, hein. Si tout ce coûte 10€, 15€, on va commencer à se ruiner en vidéo. Mais je trouve ça intéressant. Apple, enfin, la plupart du temps, quand ils touchent quelque chose, ils arrivent à faire quelque chose de magnifique, hein. On va voir, on l'a vu, le show était juste, ne serait-ce que le début du show de la keynote, c'était une bande-annonce. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant, super marrant, vraiment bien construit. Et ils ont signé avec des grands noms, donc ils vont nous faire du grand spectacle également. La question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont trouver leur place? Est-ce qu'ils vont réussir à faire des séries intéressantes? Alors, celle qu'on a vue paraissait intéressante, un peu futuriste, post-apocalyptique, enfin des choses comme ça, donc tout ce que les gens aiment aujourd'hui. Mais derrière, on va avoir des grands noms, hein. Disney va peser lourd avec les Marvel, avec tous les Disney justement. J'attends de voir, je dis pas non, je serais curieux de voir comment ça peut fonctionner et comment ça va fonctionner en France, où on est sûr d'avoir des épisodes en français en tout cas, enfin au moins sous-titrés en français. Donc ouais, je pense que je pourrais acheter ça. Après, j'espère que ça fonctionnera bien sur mes appareils, mais ça, seul l'avenir me le dira.
Oui, rien n'est moins sûr. Alors c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué de s'imposer face aux Netflix, Amazon Prime et compagnie, hein, d'autant plus que, à la différence des autres, je crois qu'Apple n'a pas de back catalogue. Ce sera uniquement des exclus, des choses qu'ils vont financer eux-mêmes. Donc ouais, ça va être quand même difficile de booter, quoi. L'initialisation va être un petit peu difficile, mais bon, voilà, on verra bien. En tout cas, c'est un acteur de plus. Et bon, on peut finir la galaxie de services Apple, hein, enfin, par Apple Arcade. Alors, c'est un autre abonnement cette fois, mais à des jeux. Alors, c'est pas du streaming, hein, c'est l'accès au téléchargement d'une bibliothèque de jeux, une centaine en ce lancement. Donc, il y aura des noms qui sont bien connus, avec comme Ocean Horn 2, Sonic Racing, Enter the Construct, il y aura des jeux Lego aussi, beaucoup. Il y aura aussi des exclusivités, qui seront au moins en partie financées par Apple lui-même. Donc, il y aura Will Wright, il y aura Hironobu Sakaguchi, enfin, il y aura quand même aussi des grands noms. Donc, c'est vrai que ça peut donner envie, hein. Donc, Apple Arcade sera lui dispo dans 150 pays au lancement, donc sans doute on le verra arriver chez nous. Bon, je trouve ça plutôt intéressant, mais évidemment, on ne connaît les prix de rien pour le moment, excepté News Plus. Est-ce que toi, tu es intéressé par ce type d'offre? D'ailleurs, par rapport à Stadia, je ne peux pas ne pas profiter de cette section pour te demander ton avis sur Stadia, le service donc de streaming de jeux vidéo de Google dont on a parlé dans les précédents épisodes, que je vous invite à écouter d'ailleurs au besoin, parce que là, on n'est pas du tout en présence de service de streaming, c'est vous téléchargez les jeux, donc ça sous-entend que vous pouvez y jouer n'importe où, même offline, alors que Stadia, bien entendu, c'est du streaming, donc ça demande une connexion permanente. Comment tu comparerais les deux, toi? Est-ce que c'est une réponse à Stadia, ce Apple Arcade?
Je pense une réponse, oui, des visions différentes. Hein. On le voit tout le long de leur keynote, Apple a parlé de sécurité, de confidentialité. Donc le online, là, visiblement, c'est pas leur truc. Ils s'en donnent les moyens. Les jeux, enfin, tu as dû voir les vidéos passées, ils sont magnifiques, graphiquement très très jolis. Donc Apple va taper très très fort dessus. Des jeux, on pourrait presque les comparer à des AAA, hein, des très très beaux jeux. Bon, moi, ce qui me gêne, du coup, ça va être le téléchargement, télécharger le produit. Donc, ça veut dire que si je veux jouer au même jeu sur plusieurs appareils, il faut que je télécharge X fois sur chaque appareil. Contrairement à Stadia, justement, qui nous promet juste une connexion avec nos logs Google pour accéder à un seul jeu sans téléchargement. Alors, moi, je suis sur Chromebook, et comme tu le sais, les Chromebooks ont peu de mémoire. SSD. Donc du coup, j'évite de télécharger des choses. Donc si je peux jouer en ligne, Stadia répond plus à mon usage personnel. Mais je peux concevoir que avoir son jeu directement, jouer dans le train, ça va être sûrement plus agréable et plus facile avec Apple Arcade qu'avec Stadia. Ouais, les deux se valent, c'est une réponse. Je sais pas s'ils vont mettre le même budget l'un et l'autre. En tout cas, il y en a un qui s'entoure, Apple s'entoure vraiment des grands. Je sais plus le nom, mais je crois qu'il y a des jeux comme... je sais plus les jeux, mais ils sont vraiment magnifiques. Moi, je les trouve très très beaux. Et eux, au moins, ils ont parlé de jeux. Enfin, contrairement à Stadia, où on n'a pas entendu beaucoup parler de jeux. Et dans tous les cas, les deux n'ont pas parlé d'argent. Et ça commence à me surprendre un petit peu, parce que Apple, là, ils partent réellement dans le service. Et tu l'as dit, Apple News, ça coûte 10 dollars, pardon. Par contre, tout le reste, on sait pas. Donc, j'imagine qu'on va finir avec un budget de 40 euros par mois pour rester dans l'écosystème de Apple. Et on vient d'avoir des news sur Stadia. Potentiellement, j'ai entendu dire qu'on serait aux alentours de 15 dollars pour Stadia. Donc, il y a un bon concurrent. Je sais pas, j'adore les deux. Je suis curieux d'essayer les deux, en tout cas.
Oui, bah évidemment, ce qui sera déterminant, c'est le catalogue versus le prix. Hein. De toute façon, sans jeu, quel jeu, à quel prix? Alors, c'est sûr qu'avoir des grosses pointures comme Sakaguchi ou Charles Cécile aussi, forcément, ça peut aider. Donc oui, évidemment, Apple a beaucoup d'argent, donc ça lui permet de faire appel à des grosses têtes d'affiche qui pourront produire des jeux intéressants et exclusifs, ou pas d'ailleurs, ou pas intéressants, parce que finalement, on n'en sait rien. On verra ce que ça donne, mais c'est vrai que c'est une bonne... je sais pas si c'est vraiment une réponse à Stadia, parce que comme tu l'as bien souligné, c'est deux services qui sont vraiment très différents, qu'on peut pas utiliser de la même manière exactement, parce que voilà, Apple Arcade, quand Google Arcade d'ailleurs, c'est une grosse question aussi.
Bientôt.
Non, c'est impossible, Google Arcade c'est impossible, parce que personne paye jamais rien sur Android, alors que sur iOS encore, il y a encore pas mal de gens qui achètent des jeux, quoi. Mais oui, effectivement, c'est pas du tout les mêmes choses, mais bon. C'est le jeu vidéo reste quand même une part importante, hein, quand même de toutes ces plateformes, donc on verra bien. En tout cas, c'est vrai que c'est très très intéressant, hein, et alors il y a un dernier truc qui a quand même été annoncé à cette conf. Le truc le plus surprenant et inattendu, enfin en tout cas pour moi, hein, de ces annonces, c'était la carte bancaire Apple, l'Apple Card. Parce que oui, hein, Apple annonce une carte de crédit en partenariat avec Goldman Sachs. Oui, cette banque-là, hein, c'est la même qui a fait n'importe quoi avec les produits dérivés, qui a largement contribué à la crise de 2008, qui a été poursuivie en 2011 par l'État américain d'ailleurs, et qui a été aussi largement impliquée dans le camouflage de la dette grecque, hein, et donc dans la crise de la dette de la zone euro. Bon, enfin, tout ça c'est du passé. Bref, l'avenir, c'est l'Apple Card, une carte qui matérialise l'Apple Wallet, en quelque sorte, hein, puisqu'il suffit de s'inscrire sur son iPhone pour avoir une carte virtuelle qui se double d'une carte titanium, en titane, vraisemblablement, donc ce qui sera vraiment en titane, je sais pas. Probablement, en tout cas, puisque c'est aussi un indicateur de statut social, après tout. Hein, c'est la carte, elle est plutôt classe, hein, donc elle est très très sobre, il y a juste un petit logo, le nom et la pupusse. Et la carte ne supporte d'ailleurs pas seulement du coup Apple Pay, mais aussi les paiements standards via Mastercard et le crédit donc via Goldman Sachs. Les taux d'intérêt vont de 13 à 24%, ce qui est élevé en fait. Je vois pas trop l'intérêt, hein. Même pour un Nord-Américain. C'est des crédits. Alors on parle de crédit revolving, hein, c'est des cartes de crédit à l'américaine. En tout cas en Europe, on a moins cette culture de la carte de crédit. Hein. Pierre-Olivier en parlait il y a peu. Donc il y a aussi quand même un mécanisme intéressant, il y a du cashback, donc entre 1 et 3% selon ce que vous achetez, et donc évidemment, si vous achetez des produits Apple par exemple, ce sera 3%, sinon ce sera 1%. Et bon, tout votre budget est géré automatiquement par une appli encore là, très jolie, très léchée, et donc qui détecte vos achats et qui les classifie à quoi en coût de machine learning pour vous permettre d'avoir, disons, un budget bien équilibré. Parce que c'est toujours la même promesse, Apple veut préserver vos infos, votre budget, votre vie privée, parce qu'il n'y aura pas de pub, il n'y aura pas de revente de données, un budget mieux maîtrisé, bref, comme ils disent, une santé financière, assurée évidemment si tu as un iPhone, évidemment, puisque... Alors bon, la carte ne concerne pas encore l'Europe, de toute façon, ce qui me concerne, il faudra me passer dessus, mais plusieurs fois même, avant de me faire adopter un produit backé par Goldman Sachs, mais bon. Toi, Nico, qu'en penses-tu de l'Apple Card ? Est-ce que tu prendrais une Google Card si elle existait un jour ?
Non, je sais pas trop. Tiens, c'est une bonne question. Je me l'étais pas posée. En tout cas, je prendrais pas une Apple Card. Ça, c'est certain. Déjà parce que j'ai pas. En fait, là, on voit qu'on commence à se faire enfermer dans un écosystème. Alors, il est parfait, hein, cet écosystème. C'est la prison dorée. C'est tu es dedans. Alors, certains vont appeler ça des hôtels. Moi, je vais appeler ça une prison parce qu'une fois que t'es dedans, tu n'en sors plus. Tu vas pouvoir regarder tes infos, ta télé, enfin jouer, dépenser ton argent. Après, on nous dit qu'on conserve, enfin qu'on se sert pas des données, mais bon, on sait un peu tout quand même avec ça. Donc à prendre cette carte-là, non. La Google Card, je pense pas non plus. Mais j'ai déjà des néobanques. En France, moi j'utilise par exemple N26, qui est sensiblement identique à ce que Apple propose là, avec un suivi, une application qui est, comme tu disais, bien léchée. On sait où on a acheté, on sait qui a pris l'argent, quand. On maîtrise son budget au bout des doigts. Donc du coup, non, ça m'intéresse pas trop. Et puis, ce qui m'interpelle comme toi, c'est être adossé à Goldman Sachs et puis à Mastercard. Il faut savoir que Mastercard, l'année dernière, ils ont signé un partenariat avec Google pour les données. Donc je sais pas si les cartes d'Apple glisseraient doucement sur les données de Google, je sais pas. Enfin bref, je vous laisse seul juge là-dessus. Donc non, je sais pas. Mais la carte est belle. Mais bon, on s'en servira jamais, a priori. Le cashback, par contre, est intéressant. C'est la seule chose qui, potentiellement, si on me forçait, serait acceptable pour moi.
Oui, le cashback, évidemment, est forcément séduisant. Bon, c'est une carte qui est pensée pour le marché américain en premier, hein. Peut-être que ça viendra ici assez rapidement ou pas. Je sais pas vraiment, parce qu'il va falloir faire des accords avec d'autres banques, d'autres réseaux bancaires pour avoir accès à l'Europe et au reste du monde. Bon, écoute, fait comme tu dis, hein, pour pratique ou séduisante qu'elle soit, hein, bon, évidemment, toutes ces offres ne s'adressent qu'aux machines Apple, donc aux utilisateurs de machines Apple, une constellation de services et de contenu qui permet aux clients d'avoir de moins en moins à sortir de l'écosystème, et qui, bien entendu, hein, ils l'espèrent, feront suffisamment envie aux autres pour soutenir les ventes de ces appareils, hein, malgré des prix qui sont pas très très amicaux quand même, hein, jamais, hein, je me remets pas du prix des AirPods, les nouveaux AirPods là, qui coûtent, je sais pas, quelque chose comme combien, 279$, non ? Je sais pas.
Un truc comme ça, ouais. C'est hors de prix pour juste un. Enfin, je crois pas qu'il soit amélioré. C'est juste le support qui devient sans fil, c'est ça?
Oui, il y a des petites améliorations.
Chargé sans.
Ouais, on peut en parler deux minutes. Hein. Enfin, c'est vrai que. C'est pas un sujet qui me... Mais bon, effectivement, c'est quand même intéressant de toucher deux mots. D'après ce que j'ai vu, oui, il y a un chargeur sans fil, déjà, qui permet de recharger les AirPods de manière très très rapide. Il y a une nouvelle puce à l'intérieur qui permet donc déjà d'augmenter... Elle doit gérer l'énergie un petit peu de manière plus intelligente, donc elle augmente un petit peu l'autonomie des écouteurs, ce qui est toujours sympa, et elle rajoute quelques fonctionnalités, donc voilà, c'est des... Bon, c'est des nouveaux AirPods. Si j'étais très mauvaise langue, je dirais qu'en fait, la principale raison de passer aux AirPods 2, c'est parce que la batterie de tes AirPods est probablement morte, puisque ça fait 2 ans que tu les utilises tous les jours, et que des batteries de cette taille que tu recharges tous les jours, normalement, elles sont déjà mortes, et comme évidemment, elles ne sont pas remplaçables, eh ben, il va falloir changer, alors autant changer pour les nouveaux AirPods. D'ailleurs, la durée de vie de nos appareils avec des batteries partout, tout le temps, ça va commencer à devenir un gros problème. Bon, on en parlera probablement dans un autre épisode, je pense. En attendant, tu avais des chiffres à nous, concernant Apple, chiffres à nous donner. Vas-y, je t'en prie.
Ouais, alors, quand on a vu la keynote, à la fin de la keynote, je me suis dit, bon, clairement, Apple sort de son univers tout matériel. On abandonne pas, mais le côté iPhone, matériel, devices, devient peut-être anecdotique. D'ailleurs, on n'en a pas parlé une seule fois. Toutes les nouveautés ont été annoncées en amont de la keynote, avec les iPad Air et compagnie qui ont été remasterisés. Et puis, je me suis un petit peu documenté. Je me suis dit, dis donc, depuis quand Apple ne veut plus l'argent du matériel, enfin, veut prendre cette partie-là, mais peut-être aussi du service. Et je suis un peu tombé des nues parce que je m'étais pas forcément posé la question auparavant. Et en fait, Apple, ça fait plusieurs années que la partie service, donc avec Apple Music, avec les applications, gagne beaucoup d'argent en fait. Je sais pas si tu savais qu'ils en gagnaient autant en fait.
Alors, c'est une volonté stratégique qui date pas complètement d'hier non plus de se porter sur le service. Par contre, j'ai pas vraiment les chiffres précis, non, pas du tout. Donc, oui, c'est très intéressant.
Ouais, donc je suis tombé sur un article que je vous l'ai mis en lien dans les notes de l'émission. Pour donner un seul chiffre, sur l'année 2018, les services pèsent 37,2 milliards de dollars. Alors, pour moi, c'est un chiffre énorme. Je suis même pas sûr de savoir faire le nombre de zéros derrière la virgule. Mais pour comparer aux produits, en fait, les Mac ne pèsent que 25,5 milliards, les iPad 18 milliards et les autres produits, donc les AirPods pèsent 17 milliards. Donc à lui tout seul, ce service pèse très très lourd, plus que chacun des produits séparément les uns des autres. Et donc c'est ça qui m'a vraiment étonné, parce que ça date pas d'hier, comme tu le dis, ça date depuis 2015 où les services prennent de plus en plus de pas. Et je pense que cette keynote annonce la fin de l'ère Steve Jobs, où c'était le matériel en premier. Il avait vraiment mis tous les produits en avant. Et puis là, on passe sur Tim Apple, Tim Cook, qui vraiment met les services en avant depuis quelques temps, et ça se voit sur le diagramme que je vous ai mis. Enfin, moi, j'étais vraiment surpris. Donc je sais pas si c'est ton cas, mais moi, les chiffres m'ont vraiment impressionné.
Alors, je suis pas autant surpris que toi, je sais pas si je suis autant surpris que toi. En tous les cas, oui, c'est vrai que ça fait toujours, c'est toujours intéressant d'avoir les vrais chiffres et de pouvoir se dire effectivement que le service, oui, c'est non seulement c'est déjà une grosse part d'Apple, mais c'est aussi probablement plus l'avenir que le matériel, puisqu'on avait déjà parlé des effets de commodotique, du fait que les téléphones deviennent des commodités, quoi, hein, et que c'est vrai que faire changer les gens de téléphone, c'est pas forcément aussi simple qu'il y a 5 ans. Donc du coup, oui, c'est toujours intéressant à voir. Je remarque que tu as fait allusion à Tim Apple. Donc c'est Tim Apple, donc c'est le surnom qu'a donné de manière intentionnelle, je suppose quand même, Donald Trump à Tim Cook.
Oui, j'espère.
Et qu'il a repris à son compte d'ailleurs, avec beaucoup d'humour, alors que à la base, je pense que c'était pas très sympathique de la part de Donald.
C'est ça.
Écoute, est-ce qu'on a fini sur la pomme pour le moment ?
Oh ben moi, Apple, tu me connais, c'est pas mon univers. Hein.
Non, pas vraiment non plus, mais c'est vrai que c'est quand même un acteur majeur dont il est toujours intéressant de regarder les moves, quoi. Donc on peut passer à la deuxième section de ce podcast, qui est une section où on parle des désastreuses affaires, des désastreuses aventures de Google et Facebook. Alors on commence par un petit follow-up, puisque la fois dernière, on a beaucoup parlé, même de l'attentat de Christchurch et des implications technologiques que ça avait. Et cette semaine, donc, il y a le Conseil français du culte musulman qui porte plainte contre Facebook et YouTube France pour avoir diffusé la fameuse vidéo du massacre. Donc, on avait évoqué longuement que les plateformes avaient eu beaucoup de mal à s'en débarrasser, hein, et avaient été beaucoup critiquées pour ça. Facebook, d'ailleurs, a cette semaine expliqué pourquoi il n'avait pas pu bloquer le live, hein, les raisons techniques qu'on devine, hein, et qu'on avait évoquées aussi, bien sûr, dans des algorithmes qui ne sont pas infaillibles, des réuploads en cascade par des communautés qui sont vraiment très bien organisées et vraiment très motivées, hein, depuis des copies altérées très légèrement pour contourner les filtres. Hein, donc Facebook promet néanmoins de faire mieux et d'améliorer ses systèmes de détection automatique, et ça via une analyse de l'audio en particulier. Et ça permettra de renforcer les filtres tout en évitant les streams de jeux vidéo, par exemple, parce que évidemment dans certains jeux vidéo, parfois il peut y avoir des scènes un petit peu qui pourraient être reconnues comme des choses violentes. Donc c'est quand même assez compliqué tout ça. Et bon, les législateurs veulent aussi serrer la vis, hein, parce qu'il faut rappeler qu'en septembre dernier, il y a eu des discussions à la Commission européenne, hein, sur une loi qui forcerait non seulement toute plateforme à l'élimination sous une heure d'un contenu terroriste, mais aussi à leur filtrage. Donc, alors, j'en reparle parce que, en fait, le 1er avril, toute cette concertation, quoi, ça devrait s'achever le 1er avril, hein, sur un premier vote, hein, le premier avant la discussion qui aboutira peut-être à un vote final par le Parlement. Alors, c'est une loi qui a toujours été controversée, hein, certains diront qu'elle est redondante d'ailleurs par rapport aux prescriptions des plateformes elles-mêmes. Ce à quoi les tenants rétorquent qu'il s'agit d'uniformiser, de rendre transparent le processus. Il y a aussi des objections au fait qu'elle peut nuire à la lutte même contre le terrorisme en supprimant du code de nuit qui pourrait avoir valeur documentaire. Et bon, ce à quoi d'ailleurs Lucinda Creighton, qui est du Counter-Extremism Project, rétorque que certes le travail documentaire et le témoignage est important, mais de là laisser des vidéos de recrutement de Daesh en accès libre, ben, faut pas pousser, je cite, approximativement, évidemment. Donc c'est un sujet épineux, évidemment, s'il en est, hein, je sais pas si tu as une réaction là-dessus, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé la dernière fois. Bon, c'est un sujet très complexe.
C'est super dur. Déjà, l'événement en lui-même, il est juste atroce. Après, j'ai du mal à concevoir, à imaginer le moyen de bloquer ce système-là, à part bloquer le direct. Je crois que c'est toi qui l'avais abordé dans le dernier épisode. Oui, un léger différé, comme à la télé, quoi.
Oui, c'était un léger... Oui, en fait, on avait évoqué, parmi les possibilités hypothétiques, hein, on avait évoqué... d'introduire un léger différé pour permettre la modération, quoi, si possible, que ce soit par algorithme ou par humain ou par les deux. Et bon, effectivement, c'est par défaut, mais il y a évidemment les médias, disons certains acteurs de confiance qui pourraient faire du live comme avant, quoi. C'était juste ne pas proposer la puissance du live, et qui est une puissance qui est utilisée, comme disait Guillaume Vendée la dernière fois, qui est propre aux médias, aux grands médias, ne pas les donner comme ça à n'importe qui, par défaut, disons. Tu vois, ne le donner qu'à des gens qui, dans lesquels on a confiance, en quelque sorte. Bon, c'était une proposition comme ça, bien entendu, hein. C'était une réflexion juste qu'on a eue tout haut, moi et lui, la dernière fois, oui.
Ouais, je trouve ça dommage de devoir en arriver là, parce qu'on limite la liberté d'expression également en faisant ça. Qui aura le droit, qui n'a pas le droit de diffuser en direct, qui est un grand média, qui ne l'est pas, aux yeux de qui en tout cas. Après, comment les géants du net vont filtrer ensuite ces choses horribles, comment ils vont faire? Donc évidemment l'intelligence artificielle va peser lourd dedans, mais comment ils vont les entraîner? Parce que dans mes peu de connaissances en intelligence artificielle, il me semble qu'il faut des heures et des heures d'entraînement pour savoir si ça correspond à telle ou telle situation, si ça rentre dans les cases ou pas. Et là, j'ai pas souvenir, et j'espère qu'il n'y en a jamais eu comme ça, de millions de vidéos d'attentats à ce niveau-là. Et comment on va pouvoir les entraîner et savoir si c'est du jeu de vidéo, comme tu le dis, ou si c'est autre chose, en fait?
Oui, c'est alors évidemment c'est très compliqué. Hein. Ça, clairement, faire des algorithmes qui soient fiables et qui permettent de filtrer les contenus qui sont terroristes, c'est extrêmement compliqué. De l'autre côté, évidemment, les humains, il y a toujours une limite au nombre de gens qu'on peut engager. Cela dit, c'est du travail à faire, et puis il faut quand même le faire, quoi. Hein. Je veux dire, embaucher de ouais. plus de modérateurs. Utiliser des nouveaux trucs, hein. C'est vrai que se porter sur l'audio par exemple, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée aussi, tu vois. Bon, c'est clair que c'est très très complexe. On dit pas que il y a qu'à faux que, hein, c'est pas du tout ça, c'est juste voilà, il y a une réflexion à mener quand même, parce que bon, il y a des conséquences graves là-dessus, et bon voilà, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire au mieux de ce qui est possible, voilà, tout simplement faire de notre mieux, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, le texte dont je parlais là, il est loin d'être définitif, hein. Le projet, d'ailleurs, il était largement porté par les Anglais, qui vont sortir de l'Europe, hein, comme chacun sait, d'autant que le Parlement européen va aussi être renouvelé, donc ça va retarder encore le vote final, bon, pour au moins fin 2019. Donc voilà, espérons que d'ici là, il y aura peut-être un accord équilibré qui soit trouvé. D'ailleurs, en parlant de loi, on peut au passage noter que la loi sur le copyright a été adoptée par le Parlement européen, donc cette fameuse link tax et les filtres copyright, là. Donc ce sera une réalité dans 2 ans, apparemment. Alors, sous quelle forme? Ça reste encore incertain, puisque les États membres devront choisir les détails de la mise en œuvre, hein. Donc ça s'annonce compliqué, en particulier pour la mise en place du filtrage à grande échelle par tous les acteurs, les gros comme les petits, bon, on en a déjà parlé, hein. Bon. En tout cas, les hyperliens sont explicitement exemptés de taxes, donc au moins, on pourra continuer à faire des notes de l'émission. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et apparemment,
c'est bien ça.
Les mèmes aussi sont sauvés. La parodie, les pastiches sont aussi tolérés. Donc voilà, on va dire, le principal est sauf, quoi, quelque part.
On pourra faire des podcasts encore, c'est cool.
Oui, je pense qu'on pourra quand même continuer à faire des podcasts, en tout cas, on l'espère. Alors, des mèmes, d'ailleurs, il y en a un bon paquet sur Instagram, hein, pour le meilleur et le pire. Le réseau, d'ailleurs, qui fait assez peu les gros titres importants, bah, apparemment il est devenu the place to be pour les alt-right, les complotistes et les fans de QAnon et les autres suprémacistes, quoi. Donc c'est un article de The Atlantic qui fait froid dans le dos quand même, en décrivant que le réseau est non seulement bourré de comptes qui sont des machines à même haineux, mais en plus, c'est là que sont les jeunes aussi. Et il n'y a pas de meilleure méthode pour initier les collégiens et les lycéens à QAnon, par exemple. Donc à l'antisémitisme aussi, si vous voulez, à l'humour subtil de Pépé the Frog, et puis voilà, sans oublier une bonne petite couche d'antivax en glaçage. Alors que ça s'appelle Uncle Sam, Misguided Children, The Typical Liberal, Activate Justice ou The Grim Inquisitor, voilà, c'est des contes qui déversent des insanités sur les démocrates, les migrants, les juifs, le grand complot, qui déversent des trucs, des inepties en rafale, et dernièrement bien sûr, que Christchurch est un mensonge. Voilà, que les victimes sont des acteurs, même à l'appui, bien entendu, gif animé prouvant que les balles disparaissent au milieu de rien, que les taches de sang ne collent pas, enfin bon, bref, vous voyez l'idée. Et donc le truc, c'est que la génération Z, hein, comme on l'appelle parfois, est donc exposée via sensiblement la même propension des algorithmes de recommandation d'Insta à te proposer 15 autres comptes anti-vax si tu viens d'en causer le T1. Mais voilà, ils sont exposés à une réalité parallèle dans laquelle George Soros boit du sang de bébé, le crash d'Ethiopian Airlines, d'ailleurs dont on va reparler plus loin, n'a jamais eu lieu. Voilà, et comme si c'était pas suffisant, ben, c'est aussi sur Instagram que les Russes préparent leur prochain coup d'éclat. N'oublions pas que pas mal d'ados qui consultent ces comptes seront des électeurs en 2020, donc l'élection américaine, et dont en attendant, d'ailleurs, ils pourront se faire aussi les dents avec les élections européennes, hein, puisqu'il y a déjà FireEye qui a repéré de multiples tentatives de phishing ciblant les médias et les gouvernements provenant de groupes de hacking russes bien connus. Voilà. Alors Nico, je sais pas si t'es sur Instagram, toi, ou si est-ce que tu as vu passer des trucs pas nets dans ton flux?
Alors, je suis sur Instagram, oui et non. Enfin, j'ai un compte comme peut-être tout le monde. Après, je l'utilise pas plus que ça. Du coup, bah, je suis pas très ciblé par leur algorithme, je pense, parce qu'on. Enfin, et en même temps, je regarde pas. Ceci dit, je sais même pas comment regarder les autres. J'imagine qu'il doit y avoir un moteur de recherche ou un truc comme ça. Bon, ça m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'interpelle le plus, c'est qu'on puisse laisser passer ça. Instagram, ça appartient pas à Facebook, encore une fois. Bon, j'ai rien dit. C'est étonnant qu'on puisse laisser ces théories, cette non-information, et puis que forcément des gens vont tomber dans le panneau, vont y croire, vont porter leur bonne parole, leur mauvaise parole à tout le monde. Moi, je trouve ça vraiment. C'est là qu'on voit la technologie, c'est magnifique, c'est merveilleux. Par contre, il y a le côté sombre où on n'arrive rien à faire dès qu'on essaye de limiter quelque chose. Il y en a toujours un qui va foutre la merde, en fait, pour parler gentiment. Donc, ça m'intéresse pas. Je vais pas regarder. Et mon fils, je vais lui interdire Instagram maintenant. Tiens, t'as gagné.
Non, mais c'était pas le but, vraiment, hein, je suis désolé. Non, mais c'est vrai que c'est navrant, hein, parce que bon, quelque part, clairement, on est... la liberté d'expression, c'est formidable, hein, mais là, si tu veux, on est un petit peu au-delà, quoi. On est dans des trucs qui sont carrément dangereux, quoi. Donc, il faut... Voilà, c'est donc un gros chantier pour Facebook, indirectement, donc sur Instagram et partout ailleurs. D'ailleurs, bon, il y a beaucoup de chantiers, hein, Facebook, puisque bon, on va peut-être renouer avec notre tradition de 2018, hein, à savoir le scandale Facebook de la semaine. Alors cette fois, c'est quand même un truc désopilant, puisque Facebook a conservé sur ses serveurs depuis genre 2012 des centaines de millions de mots de passe et d'identifiants en clair. Mais tu vois, dans un truc comme un fichier motdepasse.txt, je pense que ça t'est vraiment à rien de ça, quoi. Et c'était accessible à tous les employés de Facebook, tranquille, peinard, tu vois. Alors je pense que... Ouais, vas-y.
Non, je disais, c'est bien, ils ont la même sécurité que moi, c'est parfait.
Voilà, alors je sais pas si c'est un exemple, parce que bon, je pense qu'on en est à ce point de n'importe quoi, ouais, c'est fou. Pour le moment, rien n'indique que ces infos étaient fuitées, tu vois, ou aient été utilisées abusivement par les employés, bon, ok. Bon, quand même, on croit rêver, quoi. Comment des pratiques aussi impensables ont pu perdurer pendant 7 ans dans une des plus grosses boîtes tech du monde? C'est quand même fou. Alors, la plupart du compte, hein, c'était entre 200 et 600 millions, donc quand même. Ça appartient à des utilisateurs de Facebook Lite, donc une version allégée, hein, comme son nom l'indique, hein, qui est très utilisée dans les pays où la connexion est lente et les téléphones sont peu puissants. Et alors, c'est pour ça que les moins de choses possibles sont faites sur les téléphones. Facebook Lite se connecte à un proxy qui fait la majorité du boulot et après il envoie le résultat final quasi fini à l'appareil. Et c'est là que ça part en sucette, parce que le proxy doit donc se connecter à la place des gens et pour ça, bah, il conservait les mots de passe et les idées en clair. Bon, ça explique la majorité des cas. Sauf que bon, dans le tas, ce qui est très étrange, c'est qu'il y a aussi des utilisateurs d'Instagram et de Facebook pas light qui sont là. Et donc, voilà, pourtant, c'est des grosses applis qui sont censées avoir des pratiques normales pour tout ingénieur sain d'esprit, c'est-à-dire conserver uniquement les hashes. Mais bon, il semble donc que certaines API, à certains endroits, font absolument n'importe quoi. Donc c'est quand même assez fou. Tout ça s'est passé sur des serveurs internes à Facebook. Donc il ne devrait pas y avoir de répercussions majeures pour les usagers, mais bon, c'est pas très rassurant, quoi, hein, après tout.
Si.
Et en plus, il est bien possible que Facebook minimise la portée du problème. Ce ne serait pas la première fois qu'il raconte des bobards. Non, non, c'est quelque chose ici, hein, d'ailleurs. Pour la bonne bouche, rajoutons que de nouveaux mails internes, qui sont en possession de la cour de Washington, montrent que Facebook était au courant du problème de Cambridge Analytica 5 mois avant que l'affaire n'éclate dans les médias. Or, rappelons-nous que Zuckerberg affirmait avoir appris le problème par la presse. Alors, gros mensonge, pas du tout, jure-t-on chez les Bleus, les mails parlent d'un autre problème. Oui, c'est aussi la même entreprise, c'est toujours Cambridge Analytica. Et oui, c'est à peu près au même moment, mais c'est un autre truc dont on a oublié de vous parler. Voilà, voilà. En fait, je me demande même ce qui est le pire. Bon, je sais pas. Est-ce que tu es un utilisateur Facebook, toi, Nico ?
Ouais, plus je vous écoute, plus je me dis qu'il faudrait que je l'efface, ce compte. Oui, je suis utilisateur de Facebook, mais pour les blogs que je tiens, et puis pour à titre pro. À titre perso, pas du tout. J'avais pris mon nom pour pas que quelqu'un le prenne à ma place, c'est tout. Mais c'est impressionnant. 2018, c'était déjà n'importe quoi. 2019, on est en mars, je crois, c'est encore n'importe quoi. Les mots de passe en clair. Non, mais c'est, moi, je faisais ça quand j'étais étudiant, quand j'ai commencé à apprendre à coder, ouais, ils étaient en clair sur un fichier de texte parce que j'apprenais, mais entre-temps, j'ai évolué, hein, j'ai grandi et j'ai appris qu'il fallait chiffrer les choses, donc je comprends pas que cette société l'ait pas fait. Et puis le coup du « Ah ouais, non, en fait, j'ai oublié de vous dire », alors peut-être que Marc est plus très au fait de ce qui se passe dans son entreprise, son bureau est peut-être trop haut et personne le tient au courant de ce qui se passe, hein. Peut-être qu'il est de bonne foi, hein. Je sais pas, hein.
Alors, je sais pas non plus, mais c'est vrai que c'est assez risible, quoi. C'est vrai que cette histoire de mot de passe en clair. En plus, le fait que ça touche Facebook Lite et les pays émergents, ça fait limite, c'est le tiers-monde, on fait des trucs un peu comme ça. Ça rajoute, si tu veux, un petit coup d'insulte à l'insanité, quoi. C'est bon, on verra. De toute façon, je suis certain que Facebook nous donnera encore du grain à moudre pour les semaines qui viennent. Et bon, en attendant, on peut passer à Google, parce que Google aussi a une grosse semaine quand même, puisque c'est cette semaine qui s'est pris une nouvelle grosse prune de 1,5 milliard d'euros, quand même. Et pourquoi ? Toujours pour abus de position dominante, cette fois c'est avec AdSense, parce qu'il y a une clause de contrat qui forçait les utilisateurs d'AdSense à rester dans le giron de Google, qui les interdisait d'accepter de la pub d'autres moteurs de recherche. Alors c'est quand même la troisième amende en Europe, hein, après les procédures antitrust sur mobile, et puis les résultats de Google Shopping aussi, et là on aura quand même un total de 8,2 milliards d'euros, donc c'est rondelé comme somme. D'ailleurs, bon, suite à l'affaire Android, on en avait parlé, Google forçait Chrome avec Android, hein, et faisait payer les constructeurs à l'accès au Play Store s'il n'incluait pas Chrome et Google Search. Voilà, donc ça c'était pas bien, et donc Google va mettre en place un truc qui me rappelle vraiment quelque chose, hein, un choix de navigateur, et oui, à l'initialisation de nouveaux téléphones. Alors, l'histoire se répète, hein, puisque je fais bien entendu allusion au choix de navigateur qu'il y a eu avec Windows, Windows 7, il y a 10 ans de ça. Ça s'appelait le Ballot Box, je sais pas si vous vous en souvenez, hein, ça proposait, dans un endroit aléatoire, attention, de télécharger une sélection de navigateurs populaires sous Windows, donc de l'époque. Alors, évidemment, Nico, en tant que grand spécialiste Google, je sais pas si tu as une opinion là-dessus. Il me semble que la Commission européenne soit quand même très, très, très sévère et très remontée contre le géant.
C'est un truc de fou, mais en même temps, je dirais tant mieux que quelqu'un veille au grain. Après, je suis toujours étonné de ces positions dominantes, mais pour toutes les entreprises, je comprends qu'ils abusent peut-être de cette position en faisant pression, mais de là à... Comment dire ? Je sais pas comment m'exprimer, mais je comprends pas qu'on amende une entreprise parce qu'elle a réussi finalement. C'est un peu ça. Ouais, il a écrasé les autres, mais au début ils étaient rien. Et puis ils se sont fait tout seuls en rachetant, en fabriquant eux-mêmes. Bon après, là tout le monde va me détester, tout le monde va me dire, mais tu vis dans le monde des bisounours. Ouais, non, mais je suis même pour à l'époque pour enfin tous ceux qui se sont fait eux-mêmes. Je trouve ça dommage de devoir en venir là. Après, c'est dégueulasse de profiter de leur position dominante. En même temps, je plains pas Google, hein, ils sont riches, hein, donc l'amende, enfin les amendes qu'ils ont payées, j'ai lu, je ne sais plus où, j'essaierai de retrouver les liens, que en fait l'année 2018, ils ont payé plus d'amendes que d'impôts. Bon, du coup, ça va, hein, c'est bon.
C'est le seul moyen de leur faire payer des impôts, en fait. Hein.
C'est ça, en fait. Donc, au final, on récupère l'argent. Et je suis sûr que c'est budgétisé à l'avance chez Google. Ils s'attendent à des sommes astronomiques. Et ceci dit, ils font toujours appel. Et je suis même pas sûr qu'ils aient déjà payé quelques euros ou dollars sur toutes leurs amendes. J'en suis pas certain. Donc, à mon avis, ils sont en appel et en réappel de tout et n'importe quoi pour pouvoir diminuer encore leur coût. Bon, après, moi, je serais Google. Perso, l'Union européenne, est-ce que j'en ai vraiment besoin pour grossir encore, je sais pas. Est-ce que je me barrerais pas de l'Europe? Enfin, après, moi, je suis pour les impôts, les amendes, peut-être que négocier autrement. Ouais, voilà. Bon, après, Google fait des efforts, hein, on le voit. Ils proposent maintenant de télécharger, d'utiliser d'autres moteurs de recherche sur leur navigateur Chrome. On peut, depuis quelques semaines, jours, je sais plus, maintenant, par défaut, dans l'omnibar, tu sais, où t'as l'URL d'un site internet, sur Chrome, quand tu tapes une requête, une recherche, c'est directement Google par défaut, et depuis quelques jours, tu peux choisir, en plus de Google, tu peux choisir ben Bing et Yahoo, ça c'était déjà avant, et ils ont rajouté Qwant et DuckDuckGo. Donc tu vois, ils s'ouvrent un petit peu au marché, c'est bien. Est-ce que c'est pour éviter la prochaine amende? Je sais pas, mais en tout cas, ils s'ouvrent. Voilà, à voir. Qui paye leur amende, moi ça me dérange pas. Hein. De toute façon, ils ont l'argent pour, donc autant que ça profite à nous.
Oui, voilà, je pense qu'effectivement, on peut pas vraiment dire que ça va les ruiner. Hein. Ils sont pas en danger, tout va bien. Google va très bien, Alphabet va très bien, il n'y a pas trop de problèmes. Et puis bon, tu disais, oui, ils se sont fait tout seuls, c'est vrai, non, mais attention, alors il s'agit pas de dire que Google est une entreprise de merde, hein, c'est juste que, voilà, les abus de position dominante, c'est des cas légaux, quoi, enfin, je veux dire, c'est... Il y a des règles, si tu veux, pour que la bonne concurrence, que la saine concurrence soit préservée, en tout cas en théorie. Et bon, bah effectivement, si t'as une position dominante, bah oui, t'es beaucoup plus, t'es beaucoup plus enclin à en abuser, et donc voilà, c'est après tu fais du mal à tout le monde. Et bon, la raison principale, c'est que ultimement, tu fais du mal à l'économie, en fait. Si tu empêches si tu étouffes tous les concurrents, tu finis par faire du mal à l'économie elle-même. Et c'est ça la philosophie, je pense.
Ouais, mais c'est comme tous les, je te coupe, pardon, mais c'est comme toutes les grosses entreprises. Prenons Apple, par exemple.
J'ai pas dit le contraire, hein.
Voilà, tu vois, Apple va pas prendre d'amende. Enfin, j'ai pas, à ma connaissance, entendu parler d'Apple qui prend des amendes pour une position dominante. Enfin, ils ont pas une position dominante puisque
sur
le marché.
Mais c'est parce qu'ils ont pas une position dominante.
Ouais, mais ils empêchent quand même
en Europe, en tout cas.
Ils empêchent certaines choses d'éclore sur leur propre écosystème en étant enfermés sur leur matériel. On l'a vu, c'est Spotify qui a attaqué, Apple pour Apple Music, et je les comprends. Après, Spotify profite de l'écosystème d'Apple, mais Apple profite des autres pour devenir plus gros également, parce que s'ils n'avaient pas de service annexe, est-ce que iOS les iPhones auraient autant explosé, puisqu'on le sait, c'est grâce à l'Apple Store qu'ils sont devenus aussi puissants, et puis grâce aux sous qu'ils en dégagent, et tu vois, ils augmentent, c'est quoi, c'est 30% qui prend aux développeurs, ce qui est énorme. Je sens, et ils savent qu'ils sont en position de force parce que si tu veux pas, si t'es pas sur l'Apple Store, bah tu n'es nulle part. Va sur Android et puis tu gagneras pas d'argent. Et tu vois, là pour moi, c'est une position de force, peut-être pas une position dominante, mais une position de force qui oblige les autres à se plier à eux. Bon, après, c'est un autre débat. On va dire que je suis très très fan de Google, oui, je vous l'admets, mais j'aime bien Apple aussi quand même.
Oui, mais on aime tout le monde, hein, tout le monde. Nous ne sommes qu'amour ici sur Tech Café, tu le sais bien.
Oui.
Mais bon, c'est vrai que Apple aussi, hein, enfin, je veux dire, Apple, il se trouve que je crois qu'il a autour de 30% de part de marché en Europe, donc il est beaucoup moins dans le viseur de la Commission européenne que Google, parce que justement Android, voilà, en gros, il a son 10% restant, quoi. Et donc, forcément, quand Google fait des choix, il fait des choix qui ont un impact énorme. Alors, je sais pas forcément le cas partout dans le monde, hein. Et on voit bien que Apple se fait attaquer aussi par divers acteurs régulièrement pour exactement ce que tu dis, hein, Spotify, mais il y avait des frondes de développeurs aussi, hein, qui se levaient contre justement cet App Store tout puissant. Donc il y a toujours les mêmes problèmes, effectivement, on a de moins en moins d'acteurs, hein, dans la tech, qui ont de plus en plus de poids, et en fait ça pose un vrai souci à l'échelle globale. De toute façon, on a parlé maintes fois de Facebook et de sa fusion et de ce que ça pourrait donner. Bon voilà, c'est pour ça effectivement qu'il y a des les avocats, je sais pas, les juristes hein, de la Commission européenne se penchent sur ces cas-là. Moi je pense que c'est très sain en fait, qu'il y ait des gens qui veillent au grain, et voilà, ça, hein, au moins, enfin moi perso, je suis assez content qu'ils se prennent des prunes, parce que oui, voilà, ils se comportent mal, quoi, c'est la concurrence déloyale, et puis c'est tout. Et puis bon, comme on le disait, ça va pas tuer l'entreprise, hein, faut pas rêver non plus.
Mais je pense que Google commence à se dire qu'il faudrait abandonner Android progressivement. Donc j'en parle assez souvent autour de moi. Tu as entendu parler, je crois que vous en avez même parlé, de Fuchsia OS. Et j'ai une vision des choses, après je sais pas si elle est bonne ou pas, où Android veut petit à petit diminuer la part de marché d'Android. Donc Google veut diminuer la part de marché d'Android, pardon, au profit de Fuchsia OS. Donc deux OS sur le marché. Je pense qu'ils seraient capables de faire deux OS différents pour leurs produits mobiles. Ouais, pour diviser justement leur part de marché, leur présence, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 50% de part de marché, ils auraient 25 et 25, donc ils ne seraient plus des acteurs premier plan, mais ça resterait Google. Donc
bah, voilà, moi je pensais que c'était Chrome OS le deuxième OS de chez Google, tout simplement.
Ouais, c'est le troisième, ça c'est
mais Fuchsia n'est pas vraiment encore déployé, donc je le compte pas vraiment.
Ouais, mais je pense que Fuchsia va justement casser un peu cette part de marché de Android et pas de Chrome OS. Chrome OS, il se porte plutôt bien. Il y a une grosse évolution à venir, et Android, ben on voit que Google prend des amendes toujours. Enfin là, sauf là, on est sur AdSense, mais là, les dernières amendes qu'ils ont prises, c'est sur leur forte présence sur Android de Chrome, du Play Store. Il y avait quoi d'autre ? Il y en a d'autres. Et en divisant, en scindant en deux cette part de marché, bah ils seraient plus en position dominante, puisqu'ils auraient deux OS différents, donc deux façons de travailler différentes. Donc peut-être que du coup, Apple serait la personne à abattre.
Ah, mais peut-être qu'Apple deviendra la personne à abattre. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'ils désirent, puisque s'ils sont la personne à abattre, ça veut dire qu'ils ont une position dominante. Et je pense que c'est vraiment ce dont ils rêvent. Alors, pour Fuchsia, c'est vrai que c'est difficile de savoir exactement ce que Google va en faire. En tout cas, moi, j'ai pas vraiment d'idées précises là-dessus, mais c'est quand même effectivement très intéressant de voir, parce que stratégiquement, de voir ce que Fuchsia va devenir, s'il devient quoi que ce soit. Parce que bon, c'est vrai que ça fait petit moment que j'en ai pas entendu parler, je dois l'avouer.
Oh, il y a 2-3 mois. Hein. Si, ouais, on le voit bien évoluer. Après, sur quel produit, ça reste le mystère, mais certains l'ont vu sur les Pixel 3, donc les smartphones de Google. D'autres l'ont vu sur les Pixel Book, donc les Chromebooks de la marque Google. Certains l'ont vu sur des tablettes. Il a été aperçu sur la Pixel Slate, toujours de Google. Et puis sur un appareil, un autre Chromebook qui n'appartient pas au groupe Google, je sais plus lequel c'est. Donc on le voit vivre petit à petit. Et visiblement, il va s'adapter à tous les écrans. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait le voir sur à peu près. Techniquement, on va le voir partout, sur les télés, sur les smartphones, les tablettes, enfin toutes les tailles d'écran. Très axé objet connecté, visiblement aussi, mais avec une interface utilisateur très très chiadée, très propre. Donc à voir. Moi, je le vois. Ouais, je sais pas encore, mais il n'est pas mort.
Tu le vois comme remplaçant à la fois de Chrome OS et d'Android, donc.
Ouais, je pense que ça peut être une fusion des deux.
Ils seraient compatibles les deux ?
Ouais, je pense. Bah oui, puisque les deux fonctionnent sur donc Android. Ben Chrome OS utilise des applications Android, clairement. Donc du coup, c'est ce qui va faire monter Chrome OS sur le marché français cette année, parce que ben ouvrir un catalogue à plusieurs millions d'applications, c'est quand même plutôt sympa. Ça sera le plus gros store sur ordinateur hein, pour l'instant, puisque Apple n'a pas ouvert encore son Apple Store sur Mac OS, hein, si je ne me trompe pas. Et Windows, ben je sais pas si on peut parler d'un store pour l'instant, et Fuchsia pourrait être une fusion des deux. Alors peut-être pas une fusion, mais un remplacement, même si Chrome OS, Google va énormément communiquer cette année dessus, et les constructeurs aussi, donc je sais pas s'ils veulent abandonner Chrome OS. Moi, je vois plus un troisième, tu vois, plutôt un troisième produit qui va venir se positionner entre pour taper un autre public. On va pas abandonner Android parce que ça a quand même une valeur sûre, un nom réputé. Et puis Chrome OS est en train de gagner en notoriété aussi bien au niveau des entreprises que dans le scolaire. En France, on va voir arriver dans les écoles s'il y a une négociation qui est en cours avec l'État et Google pour ça. Et Chrome OS pourrait justement ravir ceux qui n'aiment pas Android ou qui n'aiment plus Android et ceux qui trouvent que Apple est trop cher. Ça pourrait être un mix entre les deux. Moi, je vois bien ça comme ça. Les trois écosystèmes qui seraient existants encore.
D'accord. Ben, l'avenir nous le dira. On va suivre ça avec attention. Ouais. Ne t'inquiète pas. je pense qu'on peut conclure sur Google là-dessus, puisqu'on a bien parlé de Google aussi et de son avenir peut-être. Et on va passer peut-être à une rubrique motorisée. Voilà, une rubrique qui va parler d'une grosse affaire dont vous avez certainement déjà entendu parler. Celle des deux crashs des Boeing 737 MAX. Il y a un avion d'Ethiopian Airlines qui s'est crashé le 10 mars et qui a tué 157 personnes. Et en octobre dernier, il y avait déjà un autre avion du même type qui était affrété par Lion Air et qui s'est crashé en tuant 189 personnes. Alors, les deux crashs sont passés au décollage sur exactement les mêmes modèles d'appareils et voilà. Selon les autorités aéronautiques indonésiennes, l'appareil de Lion Air aurait déclenché une procédure anti-décrochage sans raison qui aurait fait piquer l'appareil. Alors, on peut rappeler. D'ailleurs, pour rappeler au cas où un avion décroche et sa portance devient insuffisante. Hein, la portance de l'avion, c'est quoi? Ben, c'est la force qui le maintient dans l'air, parce que voilà, gros, les ailes sont faites ainsi qu'elles permettent à l'air d'aller plus vite au-dessus de l'aile qu'au-dessous de l'aile. Et donc, si l'air va plus vite et s'échappe plus vite au-dessus de l'aile qu'en dessous, il y a une surpression sous l'aile, et c'est cette pression qui porte l'avion, et donc c'est ce qu'on appelle la portance. Alors, donc ça sous-entend évidemment qu'il faut que l'air passe suffisamment vite sur l'aile et que donc que l'avion bouge assez vite hein, lui-même, donc d'où voilà, l'accélération nécessaire pour décoller. Et en vol aussi, évidemment, si un avion ralentit trop, bah, sa portance faiblit et il risque de décrocher. Alors si ça arrive, il faut reprendre de la vitesse en vitesse, si j'ose dire. Donc le système de l'avion, qui est le MCAS, Maneuvering Characteristic Augmentation System, peut alors décider de faire plonger l'appareil, donc il pique du nez, hein, ce qui le fait accélérer. Sauf que là, en l'occurrence, les appareils n'étaient pas en décrochage et que la piquée s'est faite à une altitude pas très haute et du coup, les pilotes n'ont pas eu le temps de redresser à temps. Alors, c'est pas un cas isolé, il y a des pilotes américains qui se sont plaints d'avoir parfois des appareils qui plongent sans raison hein, et que voilà, l'entraînement des pilotes sur les nouveaux systèmes n'est pas toujours à la hauteur. Il y a des simulations récentes hein, qui montrent que les pilotes du Lion Air ont eu 40 secondes pour réagir avant le point de non-retour. Alors pour ça, il faut activer trois interrupteurs, il paraît. Hein, les pilotes en simulation, ils les connaissent bien, mais c'est des pilotes de test de Boeing, donc forcément, ils sont des experts. Pas sûr que tous les pilotes de ligne aient le même niveau d'expertise hein, sur tous les appareils qui manipulent. Donc, les suspicions sur les MCAS ont amené quand même les 40 pays hein, à clouer les 737 MAX au sol. Et donc du coup les avions modernes sont extrêmement automatisés et les systèmes sont toujours plus complexes, hein, donc ça donne pas systématiquement toutes les infos aux pilotes pour éviter aussi de le surcharger avec des informations qui sont parfois mineures. Sauf que parfois les infos mineures se révèlent très très importantes. Hein. Le système anti-décrochage possède un seul capteur, d'angle d'attaque. Et bon, quand il déconne, ça peut être dramatique. Et pourtant, il existe un voyant qui indique quand la lecture du capteur ne colle pas. Sauf qu'elle est en option. Il faut payer un supplément pour l'avoir. Enfin, il fallait, parce que après la shitstorm, hein, puisqu'il y a vraiment eu une shitstorm, l'action Boeing a perdu 12% depuis le début de cette histoire. Donc Boeing est non seulement en train de fournir une mise à jour de ses avions, mais aussi de rendre gratuite la mesure de sécurité. Hein, c'est quand même gentil de leur part. Voilà, en attendant, le ministère des Transports est en train de mener une enquête sur la Federal Aviation Administration qui certifie la sécurité des avions. Parce qu'en 2015, poussé par la concurrence d'Airbus, la FAA aurait torché la certification des 737 MAX en un temps record. C'est le Seattle Times d'ailleurs qui le révèle. Alors c'est sûr que à l'heure où pas grand chose ne s'oppose à des avions qui sont totalement autonomes, c'est vrai que ça refroidit un petit peu. Donc je sais pas si tu as vu cette histoire, toi, si ça te branche, les véhicules autonomes et les avions autonomes.
Ouais, ça me branche, sauf pour là. Du coup, je me dis que on veut aujourd'hui des voitures autonomes, on veut des bus, des camions, des trucs autonomes partout. Donc moi, je trouve ça génial. Hein. Je rentre un soir un peu fatigué d'une soirée, un peu alcoolisé. Je préférerais que ma voiture me ramène en vie chez moi. Et je me disais qu'il y a bien un endroit où ça devrait pas être trop compliqué, moins compliqué en tout cas, de faire des trucs autonomes. C'est l'avion, parce qu'il y a beaucoup moins de passants qui traversent la route quand t'es en l'air, beaucoup moins de ballons, beaucoup moins de feux rouges et de choses comme ça. Donc je pense qu'il y avait quand même beaucoup moins de choses à traiter. Alors je me suis renseigné un petit peu dessus il y a quelques jours, quand ça s'est passé en fait. J'ai écouté pas mal de pilotes qui étaient interviewés à droite à gauche, donc qui expliquaient qu'en fait le problème venait d'un manque de capteurs évidemment, mais également un manque de formation des équipes en fait. Ils avaient mis ce logiciel, le MCAS, dans les avions sans forcément l'expliquer aux pilotes. Et du coup, on l'a vu, alors je sais plus sur lequel des deux crashs, la boîte noire révèle que les pilotes ont appuyé, je crois, 45 fois sur le bouton pour donc arrêter et réarmer ce logiciel, et sans savoir, et on entend pendant ce temps-là, le copilote essayer de lire dans le manuel d'utilisation comment faire pour s'en sortir vivant finalement, et il n'y arrive pas. Donc moi, je suis assez étonné qu'il n'y ait pas de formation sur ces produits-là. S'il n'y en a pas, je trouve ça énorme, c'est pas possible, c'est pas l'avis d'une personne, et même si c'était l'avis que d'une seule personne, il faudrait être formé. Et puis du coup, je me suis renseigné de ce qu'il fallait faire, et maintenant je peux piloter parce que j'ai chopé le manuel d'utilisation. Et en fait, effectivement, comme tu dis, il y a trois boutons à appuyer dans un ordre bien précis, et c'est pas compliqué. T'appuies sur ce bouton pour le réarmer, ensuite t'as un autre interrupteur qui permet d'arrêter le moteur de contrôle de l'assiette, et puis ensuite t'actionnes encore un autre interrupteur pour confirmer l'arrêt, et enfin tu cliques sur le bouton et rotatif pour ajuster l'angle de l'avion, et ça remarche. En fait, il y a 4 boutons à faire, c'est 15 secondes, mais personne ne le savait dans les avions, en fait, dans les boîtes noires qui ont été écoutées, personne ne le savait. Et ça, c'est juste... moi, ça me fait peur. Du coup, je ne prends plus l'avion, hein, c'est sûr, ou alors un vieux coucou, et je vois le pilote avec son manche à balai piloté devant moi pour être sûr que je ne meurs pas à la fin. Mais c'est assez étonnant que Boeing ait balancé tout ça sans prévenir personne, sans faire de formation, sans vérifier que ça allait fonctionner. Et puis, deux coups sur coup, ça fait mal, quoi.
Oui, non, mais en fait, il faut quand même appuyer sur 4 boutons dans le bon ordre. Enfin, genre, c'est l'escape game de l'enfer, quoi. Enfin, tu t'imagines, si t'es pas habitué, t'essayes. Enfin, c'est horrible, en réalité. Et bon, comme tu le dis, ouais, il y a un gros problème de formation, il y a un gros problème, parce que, voilà, les gens ne savent plus exactement comment en fait fonctionnent tous les avions qui leur passent entre les mains, tu vois. Peut-être pas assez. Après, évidemment, justement, comme les avions sont de plus en plus automatisés, ils ont de moins en moins de choses à faire, et 99,999% du temps, ça se passe super bien, en fait. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais clairement, il y a un gros souci qui est relativement bien identifié, hein, c'est un problème de formation, effectivement, d'information, et probablement aussi des tests et des trucs qui ont été un petit peu laxistes. Alors, espérons que dans le futur, ça s'amende. Parce que bon, les avions autonomes, je pense qu'on va pas y couper. Comme tu disais, c'est quelque chose qui est presque déjà fait, en fait. Et un petit peu comme les bus ou comme les trains, il n'y a pas grand-chose technologiquement qui s'interpose entre nous et un avion autonome, j'ai l'impression.
Ouais.
D'ailleurs, je ne sais pas si les voitures autonomes, ça te branche. En tout cas, on pourrait conclure.
Ah, oui.
Oui, ça te branche. Bon, parfait.
Ouais, hein. Moi, je trouve ça génial, les voitures autonomes. Imagine, déjà, ça serait plus la mienne, ce serait une voiture collective. Elle viendrait me chercher quand je sors de chez moi. Elle m'amène à mon boulot, et puis après, elle va chercher quelqu'un d'autre qui l'amène à son boulot. Donc, on n'aurait plus notre voiture égoïstement, notre voiture. On aurait un moyen de transport qui nous amène d'un point A à un point B, mais d'une porte à une porte et pas d'une gare à une gare. Et puis, ça éviterait tellement de choses, tellement d'accidents. On l'a vu avec toutes les autres, tout ce qui se passe autour de nous, les Tesla. Toutes les voitures qui, certes, elles ont des accidents, mais quand même beaucoup moins que si ça avait été un simple homme humain qui vient piloter sa voiture et qui voit rien. Moi je veux ça, et ça pourra ouvrir aussi l'accès à des personnes qui ne peuvent pas conduire. Je pense aux personnes âgées qui ont des difficultés de vue mais qui peuvent pas se déplacer. Je pense aux personnes qui n'ont pas le permis. Ils n'ont pas besoin de permis, c'est la voiture qui fait tout seul. Donc ouais, moi ça me branche.
Mais non, mais bien, écoute, je comprends ça tout à fait. Hein. On va en profiter donc du coup pour clore cette rubrique avec quelques petites infos sur les voitures électriques qui finiront peut-être un jour aussi par être autonomes, puisque l'autonomie ça semble être un petit peu partout, donc non seulement un défi technologique, une affaire de prestige, mais c'est aussi un différenciateur commercial. En Chine par exemple, le secteur automobile est depuis peu finalement le terrain de concurrence entre des acteurs privés, qui d'ailleurs sont encouragés indirectement par le gouvernement via des facilités de crédit ou pas, donc à construire des voitures électriques. Il y a un gros mouvement vers les voitures électriques. Et du coup, les acteurs, ils sont si nombreux que pour se démarquer, il faut pas seulement faire des véhicules électriques, il faut quelque chose de plus. Et une voiture qui peut se piloter partiellement ou complètement toute seule, c'est quand même un moyen de se distinguer de la masse. Hein. En tout cas, c'est manifestement l'idée de Xiaopeng Motors, une boîte inconnue par chez nous, qui construit pour le moment des clones de Tesla. Alors, je dis pas ça comme ça, c'est même He Xiaopeng, donc le CEO, qui le dit. Il est inspiré par Tesla, il est même allé jusqu'à désosser des modèles X pour voir comment elles sont fabriquées. Et donc, He Xiaopeng, c'est le fondateur de UC Web, qui faisait UC Browser, que vous connaissez peut-être, qu'il a revendu à Alibaba, et ça lui a rapporté plein de pognon, surtout qu'Alibaba a rallongé en plus 350 millions pour fonder Xiaopeng Motors. Xpeng pour les intimes, et bon, au total donc un bon milliard de dollars pour fonder grosso modo le Tesla chinois, qui se repose d'ailleurs en partie sur les brevets de ce dernier, puisque Tesla a open sourcé ses brevets en 2014, enfin en tout cas une partie de ses brevets. Et bon, Xpeng ne fait pas d'autopilote par contre, il possède pas de tech de ce type. Alors et pourquoi j'en parle? Parce que si vous vous souvenez bien, j'avais évoqué le cas d'un chinois qui faisait de l'espionnage industriel chez Apple, et son projet Titan, donc le projet de voiture autonome, et d'ailleurs, peut-être que c'est vraiment... alors, on n'entend plus du tout parler de ce projet Titan, donc il est paumé, sans mauvais jeu de mots. Bref, dernièrement, il y a aussi le cas d'un employé de Tesla qui est parti avec 40 gigas de documents sur le code d'autopilot, et ces deux personnes sont désormais des employés de Xpeng. Voilà, hasard ou coïncidence. Alors, Xpeng dément, bien sûr, personne, surtout pas le gouvernement chinois, ne tolérerait que ses ressortissants ne volent des propriétés intellectuelles. Bon, après, s'ils ramènent des savoir-faire et des souvenirs comme ça à leur mère patrie, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, là aussi, la guerre industrialo-commerciale fait rage, et au train où ça va, peut-être qu'on verra des Xpeng autonomes sur les routes avant les voitures Apple, je sais pas exactement, je sais pas si c'est ce que t'en penses, toi, les voitures Apple, déjà les Waymo, elles sont sur la route, mais doucement, quand même, c'est pas encore, on sent que c'est quand même compliqué de passer, tu sais, ça marche à 99%, mais le pourcent qui reste, il est compliqué apparemment,
C'est ça, ça va être compliqué parce que il y a de multiples critères à prendre en compte j'aimerais pas à la place de tous ceux qui déploient et qui inventent ce truc-là, mais je trouve ça génial. Voir des voitures Apple, je crois qu'ils en ont pas beaucoup déjà en test, il me semblait. Ils ont même diminué le budget des voitures autonomes, je crois, Apple. Après, qu'il y ait des concurrents qui s'ouvrent en Chine, le marché chinois, je crois que c'est celui qui a le plus de voitures déjà électriques dans mes souvenirs, donc ils ont les capacités financières, intellectuelles pour créer leurs propres produits. Alors oui, s'inspire des autres, s'inspirer c'est bien aussi quand même, on va pas toujours réinventer la roue, parce que si à chaque fois qu'il fallait que je réinvente quelque chose pour faire une voiture, ça allait être compliqué. Moi, je pense que ouais, c'est bien, ça va faire de la concurrence. Après, j'espère qu'elle sera pas déloyale. De toute façon, l'Union européenne fera un procès et puis leur fera une grosse amende.
Ou l'ironie. Ouais, ouais.
Non, pas du tout. De toute façon, les Chinois sont plus performants que nous sur beaucoup de choses. Alors quand je dis nous, c'est les États-Unis, l'Europe.
Je suis sûr qu'ils vont. Pas que nous, toi et moi, parce que faut pas exagérer.
Mais les autres, oui. Ils sont vachement performants. Ils vont. Pour moi, c'est eux qui vont. La Chine veut devenir la première puissance économique mondiale dans très très peu de temps. Donc pour les 100 ans de leur leur gouvernement, on appelle un gouvernement la Chine. Ils vont devenir très très puissants et sur tous les marchés économiques, financiers, technologiques. Et j'ai aucun doute qu'ils seront devant tout le monde dans très très peu de temps, aussi bien sur les voitures électriques que sur les voitures autonomes, même si ils ont emprunté quelques brevets.
Bon, écoute, on verra bien. En tous les cas, il n'y a pas que les Chinois, il y a quand même des nouveaux acteurs aussi. Sur le marché des voitures électriques, dont on ne parle pas trop, mais ça veut dire que c'est un petit peu le bordel. Par exemple, Faraday Future, qui aurait pu être un concurrent à Tesla si c'était pas devenu une saga financière assez louche, hein, puisque bon, c'est, Faraday Future, ça a été fondé en 2014, et la boîte s'est retrouvée au bord de la faillite en 2017, et d'ailleurs elle court toujours après le cash, qu'elle a pas. Elle revient de vendre son QG à Los Angeles d'ailleurs, et faut dire que le PDG de Faraday Future, c'est l'ex-PDG de l'Echo, si vous vous souvenez des téléphones, et donc il a fondé d'ailleurs... L'Echo est toute une autre galaxie de boîtes, et apparemment elles ont toutes fait faillite, et il a fui carrément à la Chine parce qu'il y croulait sous les dettes, et il est d'ailleurs blacklisté là-bas comme un semi-escroc qui paye pas ses dettes, donc voilà, c'est assez moyen. Alors, ça n'empêche pas les compatriotes pourtant de le renflouer périodiquement, puisqu'il y a eu Evergrande, qui est donc une entreprise chinoise d'immobilier. D'abord, donc, il a quand même injecté 2 milliards, enfin, qui a promis 2 milliards de dollars. Bon, ça a tourné au vinaigre, c'est un peu compliqué, on va pas revenir là-dessus complètement, mais bon. Aujourd'hui, il y a T9, ou T9, je sais pas exactement comment on dit, c'est une boîte de jeux vidéo chinoise aussi, qui offre 600 millions pour que Faraday Future développe une voiture en Chine. Bon. Moi, perso, je comprends pas bien comment leur boss, donc, qui s'appelle Jua Yuating, fait pour trouver encore des investisseurs. Mais bon, écoute, à suivre. Comme ça sort aussi chez Faraday, donc, évidemment, ses employés ne veulent pas rester en cage. Donc, certains sont partis et ont fondé une autre boîte qui s'appelle Easy Velocity. Qui s'appelait Easy Velocity avec des aides de BMW. Mais comme c'était un nom à coucher dehors, ils ont récemment rebrandé ça en Canoe. Voilà, sans savoir que c'est aussi le nom d'une obscure console Linux portable coréenne d'il y a 10 ans. Bon, enfin, vous regarderez. Mais bon, bref, nouveau nom, nouveau concept. La marque fera des voitures lifestyle dès 2021. Donc d'abord manuel, puis autonome évidemment, hein, qui consisterait finalement globalement en divers habitacles minimalistes que tu mettrais sur un châssis unique. Voilà, un habitacle le plus spacieux donc possible, comme une sorte de salon sur roue, qui sera d'ailleurs uniquement disponible en leasing, c'est-à-dire payable au mois sans engagement. Et voilà, donc que de promesses, hein, y a tellement de promesses pour le futur de la voiture. Alors, des promesses qui ne seront pas toutes tenues, ça c'est certain, mais bon voilà, je sais pas trop. Lesquelles t'espères te voir se concrétiser, toi, sur la voiture du futur? Je sais pas si t'as une voiture d'ailleurs.
Est-ce que... Ouais, je suis une voiture, j'habite très très loin de mon lieu de travail, enfin très loin, à pied ou en vélo c'est trop compliqué, donc j'ai une trentaine de kilomètres à faire pour aller travailler, donc j'ai obligatoirement une voiture. Pour l'instant je suis sur du gasoil classique, je suis d'un vrai, j'aimerais tellement prendre une électrique, mais j'y arrive pas encore, hein, c'est encore pas donné à tout le monde. Le coût du leasing, je trouve ça intéressant, après à voir de quelle façon qu'on ait ces voitures-là, avec pourquoi pas, ça évite des voitures, on peut pas, enfin tout le monde ne peut pas s'acheter des voitures pour l'instant à prix, enfin c'est pas forcément abordable pour tout le monde. Quelle voiture je voudrais, ouais, je veux qu'elle soit autonome, comme ça je peux travailler pendant que je vais au travail. Oh merde, je travaille tout le temps du coup. Et je pourrais m'occuper d'autres choses pendant ce temps-là. Je voudrais qu'elle consomme pas, donc je veux de l'électricité. Je voudrais un panneau solaire dessus, des dynamos, je sais pas si ça existe encore, pour qu'elle se recharge aussi toute seule. Je voudrais qu'elle ne coûte pas cher, je voudrais qu'elle se range toute seule. Bref, en fait, je veux pas une voiture, je veux quelqu'un qui me conduit d'un point A à un point B, sans que j'ai rien à faire finalement.
Oui, en fait, tu veux devenir milliardaire et avoir un chauffeur.
Ah, c'est ça, oui, exact, j'avais pas le mot. Milliardaire, c'est ça.
Le futur de la voiture, c'est la limousine avec chauffeur, globalement.
C'est ça.
Et bien, on espère que voilà, on aura des limousines avec chauffeur qui aura un impact environnemental minimal, tout en permettant de regarder ces séries Netflix ou Apple TV+, bien entendu, tranquillement. Bon, on verra ça. Je demande à voir. Écoute, en tous les cas, ça évolue et bon, c'est toujours des trucs intéressants à suivre. Je pense qu'on en a conclu sur cette rubrique motorisée, je suppose, et que donc on est prêt pour notre rubrique en bref, donc des petites news comme ça en rafale. Et alors d'ailleurs on continue dans les trucs autonomes, puisque j'ai remarqué que, alors vous n'êtes pas sans savoir que je suis lyonnais, et j'ai remarqué que nous allons avoir à Lyon Saint-Exupéry, donc l'aéroport de Lyon, un des aéroports les plus occupés de France, hein, quand même, nous allons avoir une expérimentation très rigolote, puisque nous allons avoir un robot voiturier qui va être expérimenté donc à l'aéroport. C'est Stanley Robotics, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une entreprise française qui a fabriqué un petit robot qui est vraiment très mignon. Alors, il est très mignon, il ressemble à une espèce de... comment dire, je sais pas exactement comment on pourrait dire ça. Une espèce de congélateur géant avec deux yeux. Et à l'arrière, une grosse fourchette qui voilà qu'il met sous les roues de la voiture et qui lui permet de soulever les voitures. Donc en fait, il soulève les voitures et il va les ranger lui-même. Alors l'avantage de ce robot, c'est que bah, déjà c'est pas un humain, donc en fait il peut ranger des voitures ou voilà faire son boulot n'importe quand, 24h sur 24. Et aussi, il est capable de ranger les voitures de manière plus compacte que un voiturier humain, ce qui permet d'avoir bah, de prendre moins de place tout simplement. Et en fait, il semble que c'est aussi une bonne affaire puisque le robot voiturier coûterait moins cher, puisqu'il coûterait 54 euros, je crois. Donc c'est comme option, alors que un voiturier humain lui coûterait 104 euros. Donc c'est quand même une bonne affaire aussi pour le porte-monnaie. Voilà, le robot voiturier, tu vois, comme quoi le futur est déjà là, il est déjà à Lyon.
Ah, c'est bien ça, c'est bien. Ça, alors quand tu dis 54 euros, et 154 euros c'est $ ou je peux m'acheter un voiturier à 154 euros?
Ah, c'est par semaine, pardon, oui, je ne l'ai pas dit sans doute.
Ah, par semaine. Oui, par semaine. Ouais, par semaine, ok, je ne peux pas me l'acheter alors.
Non, en fait, oui, c'est l'option donc garage, apparemment, elle est plus chère si c'est un voiturier humain, probablement parce que c'est une question de densité, je suppose, voilà, ou de main-d'œuvre. Enfin, tous les cas, voilà, ça va, c'est intéressant. C'est une expérimentation qui va couvrir 500 places de parking pour le moment, mais qui va s'étendre, si ça marche bien, aux 6000 places hein, du parking de l'aéroport, qui est destiné, bien entendu, à se régénéraliser partout si ça marche bien. Alors un autre truc aussi autonome dont on parle assez souvent, c'est les bus autonomes. Alors il y a eu un test en Angleterre et là il va y avoir un test grandeur nature. Un petit peu plus grand peut-être, puisque bon, je crois que plus ou moins en Angleterre c'était sur le parking quoi globalement. Mais voilà, New York City va lancer une navette à Brooklyn. Alors là encore c'est Optimus Ride, ça s'appelle. Il fera une boucle tout simplement dans un espace très restreint puisque ce sera le Navy Yard, donc c'est un espace complètement privatisé où il fait une boucle, donc on peut pas vraiment dire que ce soit très très spectaculaire, mais là encore voilà, c'est une expérimentation sur des bus autonomes. Là encore c'est pas très étonnant, on avait dit Guillaume avait dit la dernière fois que c'est vrai que s'il y avait bien un truc à automatiser plus facilement qu'une voiture, c'était bien un bus. Donc probablement des bus autonomes d'ici quelques années. Tu prendrais un bus autonome, toi, pour aller travailler, si tu en avais un?
Ouais, clairement, oui, pas de problème. Après, ça m'embête de faire perdre un emploi. Mais ouais, je prends un bus autonome, je prends le train, donc c'est déjà quasi automatisé. Donc ouais, pas de problème. J'ai plus confiance en... Alors, c'est horrible, mais j'ai plus confiance en la machine qu'en l'humain, en soi.
Oui, bah ça dépend des humains, c'est sûr. C'est sûr. Autre news, on en a aussi beaucoup parlé, c'est donc le porno en Angleterre qui va être, alors on va dire pas restreint, mais si on veut dire restreint pour simplifier, en Angleterre en avril, je sais plus exactement à quelle date, mais en avril on va rentrer en service le ID, le check ID là, donc c'est-à-dire vous devrez vous authentifier, je n'avais déjà parlé bien sûr, vous devez vous authentifier pour certifier que vous avez plus de 18 ans sur tous les sites porno en Angleterre. Donc et pour ça il va falloir vous inscrire sur un site de MindGeek. Alors bon, ça fait pas forcément l'unanimité, et là ce qui est intéressant c'est que Xhamster, donc le site porno hein, bien connu, a fait un sondage sur 25 000 clients, enfin je sais pas, utilisateurs, pour savoir un petit peu ce qu'ils pensaient de ce truc-là, et on va dire que les résultats sont assez marrants, puisque globalement, il y a un tiers seulement des répondants qui vont obéir à la loi, voilà, qui ont décidé d'obéir à la loi. Ça veut dire de s'inscrire avec, en envoyant, je rappelle, hein, son, des papiers d'identité pour certifier que vous avez bien 18 ans. Donc globalement, la plupart des utilisateurs disent qu'ils vont passer un VPN, voilà, parce que bah, c'est simple, globalement. Il y a 3,8% des gens qui disent explicitement qu'ils vont juste utiliser le code de quelqu'un d'autre. Et il y a aussi un pourcentage quand même assez intéressant, assez gros je trouve, qui est de 17,7% qui disent qu'ils vont juste abandonner le porno, mais le porno en ligne je suppose. Et bon, ça reste quand même... il fallait aussi préciser qu'il y a quand même 47,4% des gens qui n'étaient pas au courant qu'il allait avoir un blocage. Encore un autre souci. Mais donc c'est marrant de voir que bon, la loi va entrer en vigueur et que globalement tout le monde s'en fout parce que la plupart des gens vont se dire que s'ils peuvent faire autrement, ils feront autrement, comme on s'en doutait. Bon.
clairement, ils vont. Enfin, le VPN, c'était la première solution. Enfin, clairement, personne va se. Enfin, j'imagine pas les gens s'identifier sur ce type de site-là. Moi, je suis pas utilisateur pour l'instant. J'irai jeter un œil pour voir si c'est bien quand même. Mais je ne vois pas du tout l'intérêt de faire ça. De toute façon,
ils vont passer par le VPN.
Ouais, non, mais même, je vois pas un anglais. Non, mais j'aurais pas à le faire, je le fais pas. Mais non, mais je vois pas les anglais faire ça. Enfin, de toute façon, personne va faire ça. Tu peux pas interdire les gens d'aller sur un site, ils vont trouver un autre moyen. S'ils veulent y aller, ils iront. Hein. Enfin, je pense que c'est déjà mort avant même d'être mis en place, ce truc-là.
Ouais, ça va probablement faire les choux gras des sites de partage de vidéos en plus. Hein.
Ouais.
On va pas se voiler la face. On va faire un petit tunnel jeux vidéo, si tu veux, des jeux et de la vidéo. Là, on va commencer évidemment par cette rumeur persistante qui se modifie chaque fois un petit peu. C'est de nouveaux modèles de Switch dans l'année. Donc cette fois, il n'y aura pas un, mais deux nouveaux modèles de Switch. Le premier sera un modèle moins cher, qui ferait l'impasse sur certaines fonctionnalités, comme les vibrations ultra précises, et qui serait probablement donc un modèle portable, qui serait là globalement pour succéder à la Nintendo 3DS, hein, qui commence à accuser son âge et dont les ventes se dégringolent d'une manière assez vertigineuse quand même. Et il y aura donc une autre version qui serait par contre meilleure, qui serait améliorée par rapport à la première version de Switch, et qui serait donc destinée aux gamers, on va dire. Voilà. Alors, on n'en sait pas plus, est-ce qu'elle sera plus puissante, ou est-ce qu'elle aura juste un meilleur écran que par exemple la Switch actuelle. Il y a des rumeurs par exemple qui pointent sur un écran Sharp qui serait un peu plus grand et de meilleure qualité que l'écran de la Switch. Est-ce qu'il y aurait aussi donc une nouvelle version du Tegra à l'intérieur? On n'en sait pas plus. Bon, même si apparemment ça devient de plus en plus évident qu'il y aura en tout cas des nouveautés Switch en 2019. Tu as la Switch, tu aimes cette console, ça t'intéresse ce genre de truc toi?
Cette console, j'aime l'idée de la console, mais je n'en ai pas. J'emprunte quand j'ai envie d'y jouer. Qu'ils en fassent une nouvelle plus puissante, ouais, pourquoi pas, hein, c'est toujours bien d'avoir des nouveautés pour refaire rentrer un peu d'argent dans les caisses. Chez Nintendo, je suis pas sûr qu'on ait besoin de quelque chose d'hyper puissant finalement, parce que les jeux sont pas, enfin, ils m'ont pas l'air gourmands comme ça de visu. C'est plus des jeux sympathiques qu'on joue entre amis ou qu'on joue avec les enfants. Ouais, je pense pas avoir besoin d'une console puissante chez Nintendo. Donc après, s'ils font ça, est-ce qu'ils vont avoir des jeux qui ont besoin de ressources supplémentaires? À voir. De toute façon, ça reste une très bonne console pour moi.
Oui, c'est une très bonne console. Alors bon, disons que c'est bon, ça ressemble beaucoup à ce que fait Nintendo depuis assez longtemps. Et puis bon, pas plus tard qu'avec la New 3DS, hein, qui est donc une version améliorée et plus puissante de la 3DS. Cela dit, justement, l'exemple de la New 3DS, moi, m'inquiète un petit peu, parce que, globalement, ils avaient dit qu'ils ne feraient pas d'exclus sur la New 3DS, et ce qui limitait quand même pas mal la portée de la console, en fait. Et sauf que, évidemment, certains jeux tirent parti de la puissance, donc il y a certains jeux qui sont vraiment très lents sur les autres 3DS, et puis finalement, il y a eu des exclusivités, mais pas beaucoup, enfin, bon, c'est... Nintendo a toujours eu un petit peu le cul entre deux chaises avec ses intergénérations, j'ai l'impression. Et là, je sais pas vraiment ce qu'ils vont choisir de faire, mais c'est vrai qu'avoir un jeu qui soit que pour New Switch et qui marche pas sur Switch normal, ce serait quand même emmerdant. Et de l'autre côté, avoir des jeux qui marchent plus mal sur Switch que sur New Switch, ce serait aussi emmerdant. Bon, voilà, moi, j'ai les intergénérations, moi, de toute façon, que ce soit la PS4 Pro, la Xbox One X, je sais que c'est le sens de l'histoire, apparemment, hein, puisque tout le monde le fait maintenant, mais moi, ça me gonfle toujours, en fait, tout simplement, et bon, voilà, je suis un petit peu, peut-être un petit peu vieux, désolé, mais...
Mais je pense que Nintendo devrait faire attention. Des acteurs arrivent sur le marché du jeu vidéo. On l'a dit au début. Hein, on a Google et Apple, hein, qui commencent à s'énerver sur ce jeu-là. S'il y a bien une société que je vois disparaître à cause de sa façon d'être, c'est bien Nintendo. J'aurais peur que Nintendo disparaisse d'ici. Je n'ai pas vu ça dans le tarot ni dans le marc de café. Hein, c'est qu'une idée. Mais ça serait dommage qu'avec ces loupés, Nintendo disparaisse et que Google et Apple prennent toutes ses parts, parce qu'ils peuvent créer des jeux équivalents, hein, clairement. Ils ont les pouvoirs de créer la même chose.
Ouais, tu dois être une des rares personnes au monde à avoir peur que Nintendo disparaisse. Ils sont pétés de thunes. Et puis bon, là, ça va très bien. Par contre, là où c'est intéressant, effectivement, ce que tu dis est pertinent avec Stadia, c'est que il y a déjà eu sur 3DS d'ailleurs déjà, il y a déjà eu des essais de streaming de jeux sur 3 au Japon en tout cas. Il y en a eu aussi sur Switch, il me semble, avec Assassin's Creed en 2018. Donc, si tu veux, ils expérimentent là-dessus et il est clair et net que si ils ont besoin, il y aura un xCloud ou un Stadia sur Switch. Possibilité d'avoir une appli Stadia ou une appli xCloud, à mon avis, c'est une possibilité avec laquelle ils s'amusent depuis un petit moment. Et puis bon, voilà, pour l'instant, c'est peut-être pas pertinent, peut-être qu'il n'y a pas les accords, tout simplement, hein, commerciaux. Mais ça, c'est quelque chose qui est, je dirais que ça nous pend au nez, quoi.
D'accord. Bah, à voir. Moi, je suis curieux. C'est le seul acteur que j'ai du mal à cerner sur le marché du jeu vidéo. Ils sont toujours en décalé par rapport aux autres. Leurs jeux sont plaisent à un public bien spécifique. Mais tant mieux s'ils restent. Hein, tant mieux. Il y a de la place pour tous les acteurs.
Ah ben écoute, c'est clair qu'ils sont un petit peu en décalé. C'est vrai qu'ils ont, mais ça leur fait leur force, je pense, tout simplement. Et d'ailleurs, pour dire à quel point ils peuvent être décalés, c'est de manière assez cool. Il y a un nouveau jeu qui a été annoncé, un nouveau jeu Zelda qui s'appelle Cadence of Hyrule. Et alors, ce qui est marrant, c'est que c'est Crypt of the Necrodancer, mais à la sauce Zelda. Et donc c'est Zelda, mais avec les mécanismes de Crypt of the Necrodancer. Donc il faut jouer en rythme pour donner le maximum de dommages aux ennemis. Et donc c'est un jeu qui est une sorte de roguelike assez régénéré aléatoirement. Mais bon, il y aura le skin et des items Zelda et tout ça, donc c'est très rigolo. On a Crypt of the Zeldancer, peut-être. Et voilà, donc c'est comme quoi, c'est quand même marrant ce crossover Necrodancer et Zelda. Un truc à tester, je suppose. Sinon, on parle de Switch, mais il n'y a pas que la Switch dans la vie, il y a aussi les grosses machines avec les grosses cartes graphiques. La PlayStation 5 est en embuscade, la Xbox One Scarlett aussi, et pour peut-être avoir une idée de ce à quoi pourraient ressembler les jeux de demain, je vous invite à regarder ce qui a été montré à la GDC par Epic, donc qui fait l'Unreal Engine, qui est dans sa version 4.21 et qui utilise donc les toutes dernières technologies en matière de scan d'environnement 3D et en matière de ray tracing aussi. Et donc il y a deux petits courts-métrages qui sont vraiment très très courts, hein, dans les 2 minutes chacun. Il y en a un qui s'appelle Rebirth et qui fait 1 minute 45 là, pour être précis. Et lui par contre, c'est un truc, il n'y a pas d'histoire, rien, hein, c'est juste des paysages qui ont été repris de nature sur des paysages islandais. Et il y a donc une espèce de truc futuriste qui fonce à toute berzingue dans ces paysages. Et c'est d'une beauté à couper le souffle, c'est absolument photoréaliste, on s'y croirait, c'est absolument fabuleux. Et donc tout ça, il faut se rendre compte, tout ça est bien entendu généré en temps réel, de même que la deuxième démo que vous irez voir, qui évidemment les liens sont dans les notes de l'émission, qui s'appelle Troll, qui est aussi très très courte, et qui montre un rendu ray tracing. Voilà, c'est une princesse, on va dire, voilà, dans la forêt, qui s'amuse avec des petites fées comme ça, au bord de lac, la nuit. Alors, tout ça, c'est rendu en temps réel, encore une fois, avec des reflets, avec des modèles d'illumination qui sont hollywoodiens, carrément. Et tout ça fonctionne de manière parfaitement en temps réel, sur une GeForce 2080 Ti. Donc, ça préfigure ce que va être la PlayStation 5, moi, je suis pour. vous irez voir.
C'est grandiose, hein. J'ai regardé les vidéos, je les avais pas vues. Elles sont magnifiques. Le paysage sur la première vidéo, tu peux pas faire la différence entre la réalité et cette vidéo-là. Hein. Franchement, c'est bluffant. Hein. On a plus besoin d'aller au cinéma. On a tout sur notre console. C'est parfait. Je signe aussi. Je m'achèterai cette console-là s'il faut.
Eh ben oui, Stadia n'a qu'à bien se tenir. Si tout ça pouvait être en réalité virtuelle, ce serait encore mieux. Eh bien, écoute, peut-être, puisque là, ça a été aussi l'occasion pour Oculus de présenter son Rift S, donc son nouveau casque pour PC cette fois, donc à côté de l'Oculus Quest, qui est un casque autonome, qui nécessite aucun autre équipement. Alors l'Oculus Rift S, c'est une, alors, c'est un casque qui est donc évolué un petit peu tous les niveaux. Il y a une nouvelle optique, hein, il y a une nouvelle lentille de Fresnel qui donne des couleurs qui sont plus vives. Il y a, alors la résolution, on la connaît pas, mais il y a des rumeurs qui diraient qu'on passe à du 2560 par 1440 en 5.1 avec un écran de 5.5 à 80 Hz. Il y a aussi et surtout un tracking inside out, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de capteurs externes. Tout est directement sur le casque. Donc il y a des capteurs qui permettent aussi d'ailleurs à l'utilisateur de voir le monde réel sans quitter le casque, voilà, de jeter un coup d'œil de où il est dans la pièce si besoin. Et il y a donc des nouveaux touch controllers. Le tout sera disponible à 400$, incessamment sous peu. Et bon, c'est donc une mise à jour qui n'est pas spectaculaire, mais qui peut paraître quand même bienvenue. Sauf que, j'ai trouvé ça assez marrant, Palmer Luckey, sur son blog, a trouvé le moyen de critiquer le truc. Pour une raison qui n'est pas forcément idiote d'ailleurs, il dit qu'il n'y a pas de réglage interpupillaire sur le Rift S, donc c'est-à-dire en gros, vous avez intérêt à avoir une tête moyenne si vous voulez avoir les yeux en face des trous, tout simplement. Donc c'est ça le réglage interpupillaire, hein, c'est la distance entre vos yeux, entre le centre des pupilles, pour être précis. Et il dit que globalement, le casque a été pensé pour donc une distance interpupillaire moyenne, mais parfaitement. Et que donc, ça correspondait à un confort pour 70% de la population, et il n'est pas dedans. Et donc, il est vénère. Alors, le fait est que peut-être vous n'êtes pas dedans non plus, hein, il faudra aller voir, mais effectivement, le réglage interpupillaire, c'est quand même pas mal. C'est dommage d'avoir fait l'impasse dessus. Moi qui ai un PSVR qui n'en est pas équipé, je trouve ça vraiment dommage, et c'est vrai que c'est pas facile d'avoir forcément une vision claire dedans, à cause de ça aussi, en partie. Donc bon, tous les cas, ça fait quand même une... La VR continue son petit bonhomme de chemin. Intéressé par la VR, toi, Nico ?
Ouais, c'est toujours... Je suis très curieux. Moi, j'ai pas pu l'essayer. Enfin, je l'ai essayé rapidement dans 2-3 salons, mais pas chez moi. Ouais, je trouve ça sympa. L'immersion totale dans un jeu vidéo, ou même à titre professionnel, dans certains métiers, je trouve ça vraiment intéressant. Après, ça reste encore... Alors, c'est pas si cher que ça, 400... Tu disais 400€, ou c'est pas... Ça me semble pas énorme. Et
t'as fait un gros PC avec, hein. Sauf si tu peux opter pour le Quest, qui sera tout en un à 400$, effectivement.
Voilà, donc ça reste vraiment très intéressant. Je serais curieux de l'avoir. J'essaierai de me le procurer un jour pour m'amuser avec, mais après, faut, comme tu le dis, avoir les yeux en face des trous. Et on me dit souvent que je les ai pas, alors du coup, je sais pas si ça va marcher avec moi.
Faudra peut-être opter pour un truc avec un réglage interpupillaire.
C'est ça.
On va clore cette rubrique en bref avec un truc qui m'a beaucoup amusé, enfin non, qui m'a fait rire jaune un petit peu, je sais pas si... Ça s'appelle Pre-Show, c'est sur Kickstarter, et en fait c'est une boîte qui va proposer des tickets de cinéma gratuits. Gratuits si vous êtes d'accord pour regarder 20 minutes, 15 à 20 minutes de publicité. Voilà, 15 à 20 minutes non-stop de pub qui va vous financer donc des tickets de cinéma gratuits. Alors dit comme ça, ça pourrait être boum, quelque chose d'assez inoffensif, mais il y a une petite nuance, c'est que déjà l'application se base sur Face ID, elle utilise donc la technologie Face ID d'Apple, pour déjà vous identifier, voilà, pour pas que n'importe qui utilise l'appli, pour que ce soit vraiment à vous, c'est nominatif, hein, évidemment le ticket est à vous et pas à quelqu'un d'autre. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi une technologie de suivi du regard, et que donc lorsque les pubs vous sont diffusées, le téléphone vérifie que vous les regardez bien, et si vous détournez les yeux, eh bien les pubs s'arrêtent, tout simplement. Et si vous ne regardez pas explicitement les publicités pendant toutes les 20 minutes, eh ben vous n'aurez pas droit au ticket gratuit. Et alors, je sais, c'est facile, mais c'est exactement ce qui se passe dans un des épisodes de la saison 1, ou la saison 2, je ne sais plus, de Black Mirror, où les protagonistes, hein, doivent regarder des publicités, et où ils sont obligés de les regarder. On ne leur laisse pas le choix. Et donc, au-delà du fait que vous pouvez avoir des tickets gratuits, ce qui en soi paraît assez inoffensif, effectivement, je me dis, mais est-ce que c'est pas le début d'une horreur, d'une future horreur, où toutes les pubs utiliseront ça, sur Android en particulier, où vous aurez droit donc à votre pub pour Clash of Clans, et vous devrez la regarder pendant toutes les 30 secondes, sinon, ben voilà, ça avance pas. Donc, je sais pas si Pre-Show ne risque pas de créer un précédent un petit peu dangereux qui, moi, me fait peur. Je sais pas ce que tu en penses, étant toi-même, je suppose, un utilisateur Android fervent.
Ouais, c'est amusant, c'est amusant. Ça va, est-ce que ça va marcher? Je sais pas. Utiliser Face ID, donc Apple. J'imagine que du coup, faut qu'on soit statique, qu'il faut qu'on regarde bien fixement. Bon, bah une photo, ça fera l'affaire. Hein. Je pense que je vais contourner le truc pour avoir mon ticket gratos. Je
Je
mettrai
suis
un
pas
cadre
sûr.
de moi.
Et n'oublie
Non?
pas que Face ID, c'est un truc en 3D.
Eh ben, je ferai un mannequin de moi en 3D,
C'est ça, il faut
en
un masque en
imprimante
3D.
3D. Ouais, c'est ça, je mets ça sur un... Et puis, je vais contourner le système pour avoir mes pubs gratuites. En même temps, moi, quand je vais au cinéma, j'y vais assez souvent, quand je vais voir des gros films, gros blockbusters, j'ai au moins 20 minutes de pub avant de voir mon film, hein. Donc, je paye et en plus, j'ai de la pub. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu la même chose? Je sais pas.
Ben, c'est de la pub en plus, puisque après tu iras au cinéma voir de la pub, après avoir regardé de
Ouais,
la
mais
pub.
j'aurais pas payé.
Mais t'auras pas payé, effectivement.
Ouais, après, je pense pas que ça marche, mais je me trompe. Et tant mieux si ça marche, mais ça va faire bizarre, comme tu le dis. On va être obligé de regarder la pub si on veut respirer 2 minutes, si on veut une dose d'oxygène ou si on veut. Enfin, ça va être. Ouais, on pourra mettre ça partout, ça va être génial.
Ben oui, ça va, exactement. C'est, tu pourras payer des choses avec ton temps de cerveau, voilà, mais littéralement en fait, puisqu'il faudra effectivement du temps de cerveau. Alors, j'ai pas dit quand même, mais pre-show, ça va être des publicités ciblées et des publicités aussi des trucs autour du cinéma, des bandes d'annonces, un petit peu comme effectivement ce que tu vois au cinéma quelque part. Bon, cela dit, moi j'ai quand même vraiment très peur de voir ça débouler et généraliser un petit peu partout, à tous les moments. Donc, bon, voilà, n'hésitez pas à venir commenter l'émission, à venir commenter l'épisode et à nous dire ce que vous en pensez sur le site de techcafé.fr. Ben cela d'ailleurs conclut notre rubrique en bref et donc on va passer à la rubrique des bonus. Alors Nico, qu'est-ce que tu nous apportes de beau?
Alors aujourd'hui, je vous amène un petit truc que j'ai trouvé il y a quelques temps. J'ai fait une interview, je vous explique comment je l'ai trouvé. J'ai fait une interview de quelqu'un enregistré et il fallait ensuite que je la retranscrive sur papier. Et une interview d'une heure retranscrite sur papier, j'ai galéré, j'ai commencé à écouter, à écrire, machin, tout ça. Et ça a été très très compliqué pour moi. C'est la première fois que je le faisais. Alors on m'a dit, t'avais qu'à prendre des notes pendant que t'interviewais. Je fais ouais, cool, mais c'est pas mon métier, donc je ne sais pas faire ça. J'ai qu'un cerveau, je ne suis qu'un homme, je ne peux faire qu'une chose à la fois. Et du coup, bah, j'ai cherché un moyen de pouvoir faire une retranscription de l'audio en texte assez facilement. Et du coup, je suis tombé sur un site internet qui s'appelle Otranscribe, qui te permet d'écouter. Donc, tu charges ton fichier audio, tu peux le lancer, donc l'écouter sur la même page qu'un document texte que tu peux remplir, que tu peux écrire. Et tu, avec la touche échappe, tu peux mettre sur pause pour continuer à écrire, tu peux écouter le son plus lentement, plus rapidement, tu peux passer d'une étape à une autre assez rapidement avec 2 ou 3 touches, hein. Donc sur un clavier classique, avec la touche F1 on revient en arrière d'une seconde, la touche F2 on avance, et la touche échappe on met sur pause, ce qui permet de rester dans une seule fenêtre pour pouvoir retranscrire mon audio en texte. Et je suis passé, pour aller encore plus loin, parce que je suis du genre très très feignant et puis la technologie m'aide bien, j'ai même basculé mon fichier audio sur YouTube pour avoir les retranscriptions en texte avec les sous-titres que j'ai importés dans Otranscript. Donc on peut importer un fichier pour encore simplifier mon travail. Et j'ai trouvé ça tellement bien que je vous le propose. Si vous avez besoin de retranscrire un fichier audio, un cours, un séminaire, une réunion, assez facilement, bah, Otranscript, c'est vraiment génial pour ça.
Bah écoute, moi je suis assez, ouais, je suis assez pour tester ce genre de truc. Enfin, c'est impressionnant de voir les progrès, enfin la démocratisation de ces trucs-là, quoi. C'est vrai que là, c'est juste un service gratuit, c'est assez fort. D'ailleurs, ça me rappelle la transcription automatique, tu sais, les sous-titres automatiques sur YouTube. C'est des sous-titres,
ouais.
Vous avez des sous-titres sur YouTube sur une vidéo en anglais, bah, c'est des sous-titres qui sont générés automatiquement, qui peuvent être en anglais ou même traduits. Enfin, voilà, c'est quand même très fort parce que là c'est fait en temps réel. Ça marche pas si mal que ça en fait. Hein. Je l'ai testé il y a pas très longtemps, puisque j'ai regardé. Au passage, j'ai regardé le documentaire sur la Terre plate de Logan Paul. Le documentaire entre des très 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 gros guillemets, bien entendu. Hein. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est
oui.
C'est to the edge and back, un truc comme ça, je crois. Bon, et bon, ben bref, c'est pas vraiment mon bonus, c'est pas vraiment ma recommandation parce que c'est Logan Paul, donc c'est absolument n'importe quoi, même si j'ai quand même rigolé de temps en temps parce que, quand même, c'est à la fois le sujet et Logan Paul, à un moment donné, c'est vrai que c'est quand même marrant. Donc c'est une grosse blague, et bien entendu Logan Paul n'est pas devenu platiste, il ne faut pas exagérer, c'est tout ça. Donc voilà, il y a un documentaire, on va dire. Et donc j'ai essayé les sous-titres en anglais, sur de l'anglais, pour voir un petit peu, et en fait ça marche de manière... ça marche 95% du temps, quoi, ce qui est quand même déjà, moi je trouve, je suis déjà impressionné, même s'il y a quand même de grosses erreurs régulièrement sur ce qu'il raconte, c'est quand même assez marrant. Bref, je sais pas si tu as vu le documentaire, tu avais l'air de
Ouais, je l'ai vu, ça m'a bien amusé également, j'ai bien ri. À regarder, c'est vraiment intéressant.
Oui, c'est bon. Logan Paul vole pas très haut, hein. Parce que c'est sur le platisme que j'ai regardé, parce que sinon c'est vrai que je suis pas particulièrement client de Logan Paul en général, mais bon. Ouais. Mais ce que je vous recommande de manière plus directe, hein, c'est sur Netflix, c'est la série Love, Death and Robots. Donc c'est une série anthologique en 18 épisodes, donc chaque épisode est un petit court-métrage indépendant. C'est de l'animation 3D et de la belle, vraiment, c'est vraiment très très bien fait. Alors c'est 2D ou 3D ou les deux, c'est-à-dire c'est soit de l'animation traditionnelle, on va dire, ça arrive, ça peut être aussi de l'animation cel-shaded, ça peut être de l'animation 3D ultra réaliste, photoréaliste, ou alors très stylée, voilà, avec une patte graphique vraiment très spécifique. Et donc c'est vraiment très très bien, tout n'est pas formidable non plus, hein. Les 18 épisodes ne sont pas géniaux, mais globalement, ça dure entre 10 et 20 minutes en plus, hein, c'est assez court, voilà, les histoires sont très variées, c'est un petit peu inégal, donc comme je disais, mais dans l'ensemble c'est vraiment un super moment, il faut savoir que si vous êtes intéressé aussi par ces histoires, si ça vous intéresse, il y a beaucoup d'histoires de SF, hein, bien sûr, il y a aussi un petit peu d'horreur, il y a un petit peu de tout. Les nouvelles, donc il y a des nouvelles dont sont tirés certains courts-métrages qui sont parfois disponibles ailleurs, donc dans des bouquins, des recueils, ou même parfois sur internet. Et donc il y a un excellent article de The Verge qui vous permettra d'explorer ça si vous voulez, vous aurez le lien dans les notes de l'émission pour aller chercher les sources, si vous les sources d'inspiration, donc de David Fincher et de ses comparses pour Love, Death and Robot, si ça vous intéresse, si vous êtes attiré par la science-fiction, par l'amour, la mort et les robots. Et toi, Nico, tu as peut-être vu cette truc.
Ouais, je l'ai regardé. J'ai pas tout regardé parce que j'ai pas pris le temps. Ce qui est génial, c'est même, y a un épisode, je crois, qui dure 6 minutes. Pour te dire, tu le regardes facilement dans les transports en commun et compagnie. J'ai trouvé ça sympa, très joli. Il y a un épisode, je sais plus comment il s'appelle, Le Témoin, je crois. L'imagerie est vraiment belle. Les éléments sont, c'est un mélange de dessin 2D, 3D. Je sais pas comment l'expliquer. Il est vraiment super beau. Après, l'histoire un peu crue, un peu crash. Je suis pas sûr que l'histoire du témoin soit très bonne, mais l'image est belle Ouais, je vous invite à le regarder aussi, j'ai vraiment apprécié, moi.
Oui, alors, il peut y avoir de la violence graphique, par contre, hein, évidemment. Ouais. Ça peut être effectivement très très cash, comme tu dis. Bon, ben, je pense qu'on on a terminé avec cet épisode, déjà, c'est passé vite. À tous les cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode avec toi, Nico. Merci beaucoup d'être venu me soutenir. Ce soir, est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Est-ce qu'on peut communiquer avec toi, interagir avec toi?
On peut. Alors merci. J'ai pris aussi énormément de plaisir à participer. Merci. On peut me retrouver. On me retrouve évidemment sur le blog mychromebook.fr où on parle des Chromebooks, de Chrome OS, de Google. Vous l'avez compris, je suis un fervent admirateur du groupe. Étant admirateur, j'ai même fait mon petit podcast qui s'appelle le CKB Show où on parle de Google, des Chromebooks, de Chrome OS, ouais, évidemment. Et on me retrouvera également sur Twitter avec @NicoChromebook. Là, vous pourrez me poser toutes vos questions et puis on essaye d'y répondre le plus souvent possible avec de l'humour, mais aussi avec des informations vraies et qu'on est allé chercher nous-mêmes des fois. C'était dur, mais on y arrivait. Voilà, c'est les seuls endroits où vous allez pouvoir me trouver, ce qui est déjà pas mal.
Mais c'est déjà pas mal, donc avec des exclusivités. Donc n'hésitez pas à aller faire un coup d'œil, jeter un coup d'œil, c'est qu'il se fait tard. Du coup, moi, je suis Guillaume Poggiaspala. Vous pouvez me retrouver éventuellement sur le Telegram de l'émission, le Telegram donc où les auditeurs peuvent interagir les uns avec les autres et aussi avec les intervenants du podcast. Donc ce groupe Telegram dont vous retrouvez très facilement le lien sur techcafé.fr. Donc moi, en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tech Café. Ciao, ciao.
Allez, au revoir. Au revoir à tous.